Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, bienvenue, c'est donc l'Intégral Foot et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec mon copilote habituel, évidemment mon partenaire des samedis, des dimanches, Sébastien Piocel. Salut Seb.
Salut Benoît.
Ça va? Bonsoir à tous. Bien remis tes émotions d'hier?
Ouais, franchement j'ai kiffé. Hein.
On a passé une belle soirée.
Vraiment ouais. Content pour Le Havre aussi parce qu'il mérite hein, sur l'ensemble de la
Le Havre, saison. Sacré champion de Ligue 2 qu'on retrouvera en Ligue 1 la saison prochaine, c'était l'événement évidemment. Et bah, aujourd'hui d'autres matchs vont s'enchaîner, c'est une grande soirée de foot, encore une fois l'apothéose, la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les 10 matchs à suivre en direct et en simultané à partir de 21h. Les enjeux, la lutte pour le maintien entre Auxerre et Nantes, Seb, est tendue évidemment. Toutes les infos à 19h avec nos correspondants. On aura d'ailleurs un invité, un héros nantais de 2005, Mamadou Diallo, qui est auteur du but qui a permis aux Canaries de se maintenir cette année-là. C'était complètement fou. On vous rappelle cette histoire donc à partir de 19h. Autre enjeu ce soir, la course à la Ligue Europa entre Lille, Rennes et Monaco. Les explications à 19h30, et puis dans un instant, on va se concentrer sur le PSG. Paris qui conclut sa saison contre Clermont dans une ambiance très particulière au Parc des Princes. Fabrice Hawkins sera avec nous. Et puis à 18h30, l'OM est le dernier match sur le banc marseillais pour Igor Tudor. Enfin à 18h45, l'objectif individuel de la soirée, le titre de meilleur buteur, la bataille à distance, là aussi entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette. C'est parti pour l'Intégral Foot. Et justement, c'est l'actu, c'est le direct, une actu foot en Angleterre, la finale de la FA Cup qui vient de se terminer et encore un titre pour Manchester City. Salut Loïc Moreau.
Salut Benoît, salut Seb, et oui, Manchester is blue again, Manchester City qui remporte la FA Cup 2 buts à 1 au détriment de son rival local Manchester United. C'est la deuxième, il a coché la deuxième croix, hein, Pep Guardiola, dans ses trois challenges. Il avait déjà réussi à décrocher ce titre de champion, cette victoire en première ligue. Là c'est la FA Cup et peut-être la semaine prochaine ce sera la Champions League face à l'Inter, qui sait, mais en tout cas on est à 2 sur 3 et c'est globalement mérité par rapport à cette rencontre. On rappelle qu'il a commencé de la meilleure manière possible pour les Citizens avec ce but de Ilkay Gundogan après 13 secondes seulement. C'est le record en finale de FA Cup, jamais un but n'avait été aussi rapidement marqué. Puis Manchester United a réussi à revenir au score grâce à un pénalty un petit peu, on va dire, généreux pour une main de Jack Grealish qui a été revue à l'assistance vidéo. Bruno Fernandes, qui est spécialiste hein, sur ce genre d'exercice, a permis à Manchester United de recoller au score. Et en début de seconde période, Kevin De Bruyne, qui était déjà passeur décisif sur le premier but, a renouvelé l'expérience et a de nouveau donné un caviar à Ilkay Gundogan, qui cette fois a eu un peu plus de réussite. C'était une reprise du pied gauche qui a rebondi deux fois devant Derrea, mais comme Derrea a mis à peu près 150 ans avant de se coucher, et ben ça a fait mouche pour Manchester City qui au final remporte cette 7e FA Cup de son histoire et qui fait le plein de confiance avant cette finale de Champions. Et j'ajoute aussi que Pep Guardiola en a profité du dernier quart d'heure pour mettre au frigo hein, tous les cadres, on va dire, de son équipe, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Jack Grealish. Donc comme ça, en plus on n'a pas de blessés, la journée est presque parfaite, Benoît.
Exactement, merci Loïc. Ça fait déjà 3 titres pour City cette saison, la Première Ligue, les 2 Coupes Nationales. Il manque désormais la Ligue des Champions pour réaliser un quadruplé historique. 18h03 sur RMC, l'autre direct, c'est le tennis évidemment, la fin du 3e tour à Roland-Garros, les internationaux de France, et on suit les matchs qui sont en cours avec Anthony Reich. Salut Anto.
Salut Benoît, bonsoir à tous.
Bon, quel est le match en cours que tu suis plus particulièrement?
Ah bah c'est le choc de la journée, j'ai envie de te dire. Même c'est sur le cours Suzanne Lenglen, c'est Taylor Fritz, l'américain tête de série numéro 9, le nouveau chouchou, on va dire ça comme ça, du public français hein. Vous vous souvenez, il s'est fait huer hein, lors de son match face à Arthur Hinderknecht au tour précédent. Et bien l'histoire d'amour continue, puisqu'il a eu le droit à quelques sifflets à son entrée sur le cours. Après ça s'est bien passé sur le terrain. Au niveau sportif, un set partout entre l'Argentin et l'Américain, et dans le troisième set c'est Taylor Fritz qui mène 2 jeux à 1 et a une balle pour breaker justement et mener 3-1 face à Cerundolo. Et dans les faits marquants du jour, la qualification sans grande difficulté de la numéro 1 mondiale, Iga Świątek, 6-0 face à une chinoise. Voilà. Donc, le programme a été très allégé sur le cours central. Ils ont même recasé un double pour nourrir un peu le public qui n'avait okay. pas beaucoup de matchs, parce qu'il y avait eu aussi un forfait ce matin de dernière minute. Voilà.
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland Garros.
Merci Anthony, je vous rappelle ce réflexe, si vous êtes passionné de tennis, la radio 100% terre battue sur l'application d'RMC, tous les matchs en direct, en intégralité, le rappel de tous les scores toutes les demi-heures, vous ne ratez rien de ces internationaux de France à Roland-Garros, un réflexe à adopter donc si vous êtes passionné de tennis. 18h05 sur RMC, avant de parler du PSG et de la remise des trophées attendus ce soir pour les joueurs parisiens, ils fêtent le 11e titre de champion de France de leur histoire, allons à Ajaccio, Sébastien Piocel, puisque c'est un autre événement ce soir, évidemment la dernière de Tudor sur le banc marseillais, mais le contexte est lourd, le contexte est important, beaucoup de tensions en Corse entre supporters marseillais et ajacciens. On va faire le point justement avec Florent Germain qui est déjà sur place. Salut Flo.
Salut Benoît, salut Seb. Salut.
Est-ce que la situation est maîtrisée? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu tout ce qui s'est passé d'ailleurs aujourd'hui?
Maîtrisée aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que le décor du jour, si on parle que de la journée de samedi, il est presque idyllique, puisque on a un beau temps et on a un parcage de rêve pour les supporters marseillais, Payotte et Tahiti Beach. Donc eux-mêmes le disent, des parkages comme celui-ci,
c'est pas un parking de
c'est comme vous voulez, c'est pas un hangar ou effectivement le parking d'un supermarché. Bref, donc il y a eu des grosses tensions hier, cela dit, c'est effectivement très important de le rappeler. C'est en plus un week-end particulier puisque c'est une fête populaire tout le week-end, la fête des pêcheurs qui mobilise beaucoup les forces de l'ordre, qui draine évidemment beaucoup de monde sur Ajaccio. Et des supporters marseillais sont arrivés dès hier, donc il y en avait quelques-uns dans les hôtels ou quelques bars du centre-ville. Les ultras d'Ajaccio en ont pris connaissance, il y a eu quelques affrontements, on a notamment vu ci et là des images, on peut les voir sur rmcsport.fr notamment, de l'hôtel Fèche, qui est un hôtel bien connu, hein, tout le monde le connaît à Ajaccio, c'est une rue piétonne, c'est en plein cœur de la ville, près de la place du marché. Bon bref, et d'ailleurs, beaucoup de locaux, j'ai pu échanger avec des taxis notamment, ne comprennent pas comment des ultras d'Ajaccio ont pu parfois jeter des chaises ou du mobilier sur un hôtel de leur ville. Ouais. C'est pas du tout dans la coutume locale. En fait, ils ont été très surpris. Certains m'ont dit, des habitants, je vous dis, des taxis, des commerçants, c'est la première fois qu'on voit ça chez nous. Donc, ça les a un petit peu surpris. Et c'est vrai qu'on craint du coup la journée, surtout la soirée.
Eh oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, donc, les supporters marseillais qui sont attendus sur les coups de 18h30, peut-être ici, au stade François Coty, vont partir en cortège depuis ce fameux lieu de rassemblement, la
juste
plage.
Juste un point d'ailleurs, Flo, la distance est courte hein, d'ailleurs entre l'aéroport d'Ajaccio, l'endroit dont tu nous parles,
c'est 15 minutes
stade.
À pied.
Voilà,
ouais, c'est 15 minutes à pied.
Donc c'est un
exactement. En fait, d'ailleurs, pour tout vous raconter, quand je suis descendu de l'avion ce matin, ouais. Les forces de l'ordre étaient présentes parce que mon vol arrivait depuis Marseille, et tous les passagers qui venaient de Marseille, on leur demandait s'ils étaient supporters de l'OM, s'ils venaient pour le match et s'ils étaient supporters de l'OM, et si tel était le cas, il fallait se rendre dans cette fan zone, donc la plage du
Ricanto. Mais si tu dis non, c'est du déclaratif.
Oui. Après, tu peux pas. L'état de supporter ne se prouve pas.
Hein. Mode de filtre. Oui, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire.
On regarde le torse. Il y a des tatouages, des cuissons.
Oui. Après, si t'as les cuissons de la Ligue des Champions ou ce que tu veux, je sais pas. Mais ou le logo OM, bref. Ouais. Mais ou le maillot, évidemment, le maillot est interdit.
Le maillot Eric Dimeco, il y a un indice.
Ouais. Non, pour terminer. Les supporters à Marseille vont arriver dans une demi-heure, une heure, on verra. Ils seront évidemment énormément escortés. Il y a beaucoup de forces de l'ordre autour du stade. La crainte, elle est sur la nuit, puisque évidemment, il n'y a pas de bateau retour, il n'y a pas d'avion cette nuit. Il faudra attendre un retour dimanche et parfois tardif, ce retour pour les supporters marseillais.
Ah oui.
Donc la crainte, elle est que, parce que certains ont pris des hôtels cette nuit, certains n'ont pas pris de lieu de résidence pour passer la nuit. Donc on craint des représailles cette nuit. nuit et évidemment il y aura une vigilance maximale du côté des forces de l'ordre.
Le problème du stade Ajaccio, c'est que c'est une sorte de goulot, donc tu connais bien Sébastien, donc c'est pas facile.
Mais il y a une, peut-être que j'ai pas suivi, mais il y a une vraie animosité entre Ajaccio et Marseille.
On peut pas dire qu'il y a une vraie animosité, mais bon, les Marseillais sont pas trop appréciés par les Ajacciens, les Parisiens non plus. J'avais fait le match Ajaccio-Lyon, ça avait été un petit peu tendu également. Okay. Voilà, on peut pas dire qu'il y a une haine entre.
Il y a, c'est pas un match à enjeu, c'est pour ça.
Ah non, pas du tout.
L'enjeu ni pour l'un ni pour l'autre, c'est sûr.
Et ça concerne que les ultras entre guillemets, puisque je peux vous dire que dans la population, il y a aussi beaucoup de Marseillais et de Corses qui sont amis. Enfin, Corses et Marseillais, il y a aussi beaucoup de raisons de s'aimer, de partager, et ne serait-ce que par la proximité.
Évidemment. Merci Flo. On te retrouve à 18h30. On fera le point sur l'OM, sur la dernière de Tudor, hein, d'ailleurs, sur le banc marseillais et sur les conséquences dans le vestiaire de l'OM. Merci Flo. À tout à l'heure. 18h09 sur RMC. N'oublions pas l'un des événements de la soirée, tout de même, cette drôle d'ambiance qui va régner pour un titre. Le PSG s'apprête à recevoir le trophée de champion de France. 11e titre de son histoire, Sébastien. Un record, on le rappelle. On le disait, contexte particulier. L'accident de Sergio Rico il y a à peine 6 jours. Donc forcément, le contexte sera lourd et l'atmosphère sera pesante. Il y a également les adieux de certains joueurs et de l'entraîneur Christophe Galtier. C'est une info qu'on vous confirme à RMC Sport. On en parle avec Fabrice Hawkins, évidemment, suiveur du PSG. Salut Fabrice.
Salut Benoît. Salut Seb.
On s'attend à une drôle de soirée au Parc des Princes face à Clermont.
Oui, effectivement, parce que le gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, se trouve dans un état grave, mais stable. On rappelle qu'il a fait un accident alors qu'il était sur un cheval dimanche dernier à Séville. Il a été gravement touché à la tête. Le dernier communiqué de l'hôpital de Séville date d'hier. Il explique donc qu'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'aggravation non plus pour Sergio Rico. Comme je vous le disais tout à l'heure, son état reste stable mais grave. Il est en soins intensifs. Alors évidemment, tu le disais Benoît, ce soir au Parc des Princes, il y aura quand même une ambiance assez particulière entre tristesse et joie de ce 11e titre. Les supporters vont manifester tout leur soutien. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, s'il y aura des tifos, des banderoles. En tout cas, le club a demandé d'applaudir. Tout le monde va applaudir à la 16e minute pour soutenir Sergio Rico, 16 évidemment, en référence à son numéro de maillot.
Ok, bon, on suivra ce moment sur RMC. Ça sera un moment fort de la soirée, évidemment, même s'il y a 10 matchs en direct et en simultané. Écoutez d'ailleurs la réponse de Christophe Galtier cette semaine en conférence de presse, interrogé sur les festivités prévues et sur l'état de santé de Sergio Rico.
Les nouvelles de Sergio, ce sont les nouvelles que vous pouvez vous avoir aussi. Ce sont à travers les communiqués que distille l'hôpital de Séville. Évidemment que notre docteur est en relation permanente avec la famille, mais aussi le corps médical. On n'a pas plus d'informations que cela. Il n'y aura pas de fête. C'est une semaine très difficile. On est tous touchés. On essaie tant bien que mal de se changer les idées à travers des séances d'entraînement qui ne correspondent en rien à une préparation de match. On est tous très unis à envoyer beaucoup d'ondes positives, beaucoup d'énergie, évidemment à Sergio, mais à ses proches, à sa maman, à son épouse.
Ça, c'est dur pour un groupe hein, quand un des membres comme ça est victime d'un tel accident. On ne sait pas d'ailleurs comment vont réagir les joueurs, Sébastien.
Ouais, mais surtout quand tu es à distance. C'est-à-dire que tu ne peux même pas aller le voir. C'est très, très frais en plus.
Ils ont voulu aller le voir, Seb, excuse-moi, mais ils ont voulu aller le voir en plus cette semaine. Il y avait
on
une volonté
sont
des
ses
joueurs
amis dans le vestiaire,
Carlos Soler, forcément les Espagnols très, très proches de lui,
bien sûr.
Qui pour certains voulaient aller le voir, mais pour des raisons logistiques notamment, ça n'a pas pu se faire. Pardon, Sébastien.
Ouais. Non.
Non, ajouter à ça une fin de saison un peu, alors je vais pas dire morose, mais un peu particulière hein, depuis l'élimination face au Bayern. On voit que c'est très compliqué à Paris. Et alors bien sûr qu'ils auraient fêté le titre différemment s'il n'y avait pas eu cet accident-là. Mais on l'a déjà vu la semaine dernière, alors qu'il n'y avait pas encore eu l'accident.
On avait
l'impression qu'ils étaient blasés, mais c'était pas ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont réussi une saison quand même assez moyenne. Mais pour revenir à Sergio Rico, c'est vrai que quand t'es coéquipier, tu sais que tu peux quasiment rien faire, à part justement comme ça va être le cas ce soir avec les supporters, et notamment lors de la dernière journée, faire quelque chose pour le joueur.
Vous suivrez d'ailleurs tout ce qui se passera dans l'avant-match avec toi, Fabrice. On sera en direct du Parc des Princes. Reste avec nous, on revient dans un instant. On va parler des autres conséquences de cette soirée. Il y a des adieux ce soir, Fabrice, au Paris Saint-Germain.
Oui.
Les adieux de certains joueurs, certaines stars, Sergio Ramos, Léo Messier, on va en parler. Et puis l'entraîneur, Christophe Galtier, on va vous confirmer les infos RMC Sport dans une seconde. Ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
18h17, RMC, l'Intégral Foot avec Sébastien Piocel qui est tendu. Évidemment, il est tendu. Il espère le maintien de son FC Nantes. On en parlera à 19h. Ouais, c'est marrant parce que Sébastien,
on est
pas très radiophonique. Il me montre Fabrice Hawkins du doigt parce que Fabrice Hawkins est nantais d'ailleurs. Alors, petite anecdote pour ceux qui le découvriraient. Fabrice Hawkins était ramasseur de balles à la Beaujoire dans sa jeunesse.
Oh là 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 là, il sort les dossiers à l'antenne.
Oui, c'est vrai.
Ça m'est arrivé une fois.
Et ben voilà, c'est beau. C'est déjà une fois. En tout cas, fan de, du FC Nantes aussi. Donc évidemment, vous êtes tendu. Je comprends mieux pourquoi t'es tendu comme ça, Fabrice. On parle du PSG évidemment dans un instant. Un petit détour par la porte d'Auteuil. Roland Garros, les internationaux de France. Anthony Reich, notamment ce match de Taylor Fritz, l'américain. Où en est-il ?
Eh bien, ça se passe mieux dans ce troisième set pour l'américain Taylor Fritz, tête de série numéro 9 qui mène 4 jeux à 3 dans cette troisième manche. Une manche partout face au rugueux argentin Francisco Cerundolo, tête de série numéro 23. Ce choc vraiment est très palpitant. Un vrai combat de sur terre battue. Et on comprend mieux pourquoi Arthur Hinderknecht n'a pas réussi à passer cet obstacle américain qui est vraiment très solide sur terre et sur les autres terrains. Ce sont des matchs de double en ce moment. À noter aujourd'hui la qualification de la numéro 1 mondiale pour les huitièmes de finale, Iga Swiatek ou encore de Casper Ruud ou Holger Rune dans le tableau masculin.
Merci Anthony, tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose. Si vous voulez suivre Roland Garros en intégralité, vous allez sur l'appli d'RMC, la radio digitale 100% terre battue. Vous avez tous les matchs commentés en direct en intégralité, un rappel de tous les résultats toutes les 30 minutes. 18h18, parlons donc de foot. Tiens d'ailleurs, petite erreur que j'ai commise que je vais rectifier tout de suite. Manchester City vise un triplé, hein, puisque Manchester City vient de gagner la FA Cup face à Manchester United, mais Manchester n'avait pas gagné la première Coupe Nationale, donc le triplé possible pour City, c'est le championnat, la Première Ligue, la FA Cup et la Ligue des Champions la semaine prochaine, évidemment, ce match attendu face à l'Inter. Fabrice Hawkins, toujours avec nous, c'est l'un des événements de la soirée, le PSG va recevoir son titre de champion de France, on a parlé du contexte particulier avec les pensées tournées vers l'état de santé de Sergio Rico. Soirée d'adieu également, Fabrice Hawkins, on le disait, un qui a été officialisé hier, c'est celui de Sergio Ramos. Hein.
Oui, effectivement, le club a pris les devants. Le club aurait pu, finalement, comme dans d'autres situations, le cas par exemple de Léo Messi, puisque pour l'instant il n'y a pas de communication officielle, ben, laisser le match se dérouler et puis communiquer par la suite. Là, le Paris Saint-Germain a pris les devants, communiqué hier soir pour annoncer le départ de l'Espagnol Sergio Ramos après la rencontre de ce soir donc contre Clermont. Sergio Ramos qui avait une proposition du club sur la table, qui incluait notamment une forte baisse de salaire. Finalement, il n'a pas été convaincu puisqu'il a préféré s'en aller, l'homme aux quatre ligues des champions pourra dire au revoir au Parc des Princes donc ce soir.
Exactement, lui qui a été très souvent blessé sur la première année, beaucoup plus régulier sur la deuxième saison. Bah, tu comprends ce choix de s'en séparer entre guillemets ou, et pour lui aussi de ne pas prolonger.
Mais ouais, il s'en sépare pas parce qu'il avait, quand même une proposition. Ouais. Alors est-ce que c'était une proposition en gros pour le faire
pour
partir,
le faire partir.
Pour le faire fuir, je pense pas. Après si moi je me demande où il va aller parce qu'il voulait pas a priori il voulait continuer à jouer entre guillemets au haut niveau. Là, je ne sais pas ce que lui proposait Paris, mais ça va être compliqué dans un autre grand club européen d'avoir la même proposition. Donc peut-être qu'il va lui aussi prendre la direction d'un pays exotique. Mais en tout cas, voilà, là, sur la deuxième année, il a su quand même, il a su rectifier le tir.
Ouais,
il lui a des offres, hein, Sergio Ramos, hein, notamment en Arabie Saoudite. C'est vrai que Paris avait une proposition pour lui sur la table qui incluait, comme je le disais tout à l'heure, vraiment une grosse baisse de salaire.
Ouais,
donc forcément, entre ce que lui proposait Paris, entre ce que lui propose par ailleurs des clubs en Arabie Saoudite ou ailleurs, d'ailleurs on pense notamment aux États-Unis, ça peut être une possibilité aussi pour Sergio Ramos, c'était peut-être plus avantageux pour lui de s'en aller.
Bon, Fabrice, pour être clair, il n'y a pas encore de communication officielle, mais Messi va quitter Paris, de toute façon on le sait, donc c'est pour lui aussi son dernier match sous le maillot parisien ce soir.
Oui, c'est le dernier match de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain, après deux saisons lui aussi, Lionel Messi qui arrive en fin de parcours, j'ai envie de dire, hein. Son départ est acté depuis maintenant plusieurs semaines, hein, début mai, avec cette escapade en Arabie Saoudite qui avait beaucoup fait parler. Il avait été puni derrière et avait donc acté son départ. Enfin, c'est ce qui a vraiment permis d'acter son départ, notamment auprès de la direction. On sait que la direction sportive souhaitait s'en séparer pour plusieurs raisons, notamment construire un effectif, on le dit depuis maintenant plusieurs mois, autour de Kylian Mbappé, sans Messi, possiblement sans Neymar également. Donc il y avait cette volonté-là. Maintenant, restait à savoir si Doha, là où toutes les décisions très importantes se prennent, il reste à savoir si Doha allait suivre la direction sportive parisienne, ce qui est le cas. Donc Messi va quitter le Paris Saint-Germain donc après ce match.
Alors ça n'a pas été officialisé, donc Christophe Galtier est resté prudent dans ses propos, mais il a quand même rendu hommage à son joueur en conférence de presse et il a aussi lancé un avertissement, enfin plutôt un conseil au public parisien. Il aimerait que Messi ne soit pas sifflé ce soir, qu'il soit plutôt honoré pour cette dernière au Parc des Princes. Écoutez.
que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible. Les remarques ou les critiques que je trouve pas du tout justifiées, mais pas du tout justifiées. Quand vous avez 35 ans dans une saison où il y a une Coupe du Monde au milieu et que vos stats à la sortie, elles sont à peu près de toute compétition confondue, je crois 21 buts et 22 passes décisives, des choses comme ça, c'est-à-dire que Léo, il a été quasiment 43 fois décisif dans la saison avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au service de l'équipe. Pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège de l'accompagner tout au long de la saison.
Bon, tu comprends cet hommage, Seb ?
Oui, après, il a quand même été repris, je crois, par la direction par rapport au fait qu'il a quasiment annoncé le départ de Léo Messi. Après, sur l'hommage, oui, parce que moi...
Il a rectifié ensuite dans un entretien accordé à l'AFP. Oui,
je pars du principe quand même que finalement, on a quand même eu la chance d'avoir, moi aussi, je pense que le meilleur joueur de tous les temps dans notre championnat. Après, c'est vrai qu'on l'a pas eu au meilleur moment. Ça a été un peu compliqué pour lui aussi après autant d'années au Barça. Après, ça reste quand même Léo Messi. On attendait beaucoup plus de lui, notamment la première année. Mais voilà, alors je dis pas que c'est un rendez-vous raté. Hein. Je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment mieux à faire avec Léo Messi au Paris Saint-Germain.
Et puis un dernier mot, parce que ça concerne directement Christophe Galtier. Lui aussi va connaître son dernier match en tant qu'entraîneur du PSG au Parc des Princes ce soir. Ça aussi, on l'affirme. Nous, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, d'ailleurs. C'est désormais une certitude, hein, Fabrice.
Oui, effectivement, Christophe Galtier va vivre son dernier match ce soir sur le banc du Paris Saint-Germain. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on le sentait venir. Ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois également, même au lendemain presque de la défaite contre le Bayern Munich, où on commençait déjà au plus haut sommet du club, on commençait à chercher un remplaçant à Christophe Galtier. C'est une recherche qui s'est poursuivie, qui s'est affinée ces dernières semaines, et on peut affirmer effectivement que Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain après la rencontre de ce soir, sachant plus qu'il y a tout l'état-major du Paris Saint-Germain à Paris, avec notamment l'émir du Qatar, avec également Nasser El-Khelaifi et Luis Campos, qui a eu des petits soucis, même un gros souci avec une perte importante dans sa famille, qui sera présent ce soir au Parc des Princes pour dans les prochains jours maintenant commencer à définir et à mettre en place les plans de la saison prochaine.
Ça devrait aller vite, la nomination du prochain entraîneur, tu penses? Une fois que les célébrations seront terminées, on saura dans les jours qui viennent?
En tout cas, c'est la volonté de tout club qui perd un entraîneur, c'est d'en récupérer un le plus vite possible. Donc j'imagine que si le Paris Saint-Germain se sépare de Christophe Galtier, c'est que quelque part, ils ont une idée assez précise de l'entraîneur qu'ils souhaitent pour le remplacer. Selon nos informations sur RMC Sport, c'est vrai qu'il y a une shortlist avec des entraîneurs comme José Mourinho, même si la tendance aujourd'hui est moins claire qu'il y a encore quelques semaines. Il y a Thiago Motta également. On parle de Luis Enrique. Il y a des contacts qui ont été pris avec l'entraîneur espagnol. Donc, ça travaille. Et ce, depuis plusieurs semaines, ça va s'accélérer. Et la volonté, en tout cas, de toutes les parties à Paris, c'est de trouver un entraîneur assez rapidement.
Et coach Courbis, non? Pas sur la shortlist?
Alors, selon mes informations, non.
Okay. Bon match ce soir.
C'est quelqu'un de très bien quand même.
Évidemment, PSG Clermont à 21h, tout comme à les 9 soir, autres très, rencontres de la 38e journée de Ligue 1. Merci Fabrice. À tout à l'heure. Seb, tu restes là. Évidemment, on continue de parler de cette 38e journée, de lancer la fusée Afterlife, évidemment, qui arrivera dès 20h autour de cette dernière journée de championnat. On parle de l'OM dans un instant, la dernière là aussi pour Igor Tudor sur le banc marseillais dans ce contexte chaud en Corse à Ajaccio. On retrouve Florent Germain dans 2 minutes. Ne bougez pas.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
18h30 tout pile sur RMC. Vous écoutez l'Intégral Foot avec Sébastien Piocelle jusqu'à 20h. On lance la 38e et dernière journée de Ligue 1 qui sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC à partir de 21h. Vous ne manquerez rien. Ensuite, il y aura l'after de 23h à 1h. Une grande soirée de foot sur RMC. Dans une demi-heure, on parle de lutte pour le maintien entre Auxerre et Nantes. Évidemment, Sébastien Piocelle est tendu. On fera le point avec le correspondant. On sera également avec coach Courbis et on aura un invité, Mamadou Diallo, le héros nantais de 2005. Dans un quart d'heure, on parle également du duel entre Lacazette et Mbappé pour finir meilleur buteur du championnat. Mais concentrons-nous sur l'OM, ce déplacement qui est chaud, le contexte qui est tendu en Corse entre Ajaccio et Marseille. Florent Germain qui est toujours en direct avec nous, on le retrouve dans un instant, juste après un petit détour par Roland Garros, évidemment le tennis, la fin du troisième tour, et ce duel entre Chirundolo et Fritz, Anthony Reich.
Ouais, c'est une sacrée passe d'armes entre les deux hommes sur le cours Suzanne Lenglen, puisque l'Argentin Thierry Rundolo, est repassé en tête dans ce troisième set. On rappelle le score, un set partout, dans 6-3 premier set pour Fritz, 6-3 à nouveau pour Thierry Rundolo dans le deuxième manche, et 5-4 il est au service, l'Argentin. Il a l'occasion d'aller chercher cette troisième manche et de passer en tête.
Ouais, c'est un match tendu, en tout cas on le suit avec toi. Et la suite du programme, d'ailleurs, on aura un beau duel Zverev Tiafo ce soir, hein, Anthony, à Roland.
Ouais, ça sera la night session de ce jour. Alexander Zverev, le revenant, vous vous souvenez, hein, cette énorme blessure au niveau de la cheville l'année dernière lors de ce match épique face à Rafael Nadal. Eh bien, il est revenu, il est reparti sur le circuit et ça va bien mieux pour l'Allemand avant peut-être de nouveaux titres sur le circuit.
Fritz qui a jamais fait un double mix avec Cornet, hein.
Et non, je crois pas.
A priori, non.
Je suis pas sûr qu'ils se connaissent.
Ok, très bien. Merci Anthony, renseigne-toi quand même, on sait jamais. 18h31, il est là, Florent Germain, en Corse, évidemment, il prend le soleil. Bon, il a l'habitude à Marseille, mais c'est la même chose à Ajaccio. Tu es là, Flo, hein, tout va
bien? Je suis là, ouais, ouais, évidemment.
Alors, c'est où Benoît, exactement, toi, d'ailleurs?
Maintenant, là?
Oui.
Ah, mais je suis en tribune de presse depuis 17h. Je me suis fait ouvrir la tribune de presse avant l'heure en disant je suis l'ami de Jean-Philippe Scapula.
Ah, bah oui, ça c'est le réseau de Jean-Philippe, évidemment. Heureusement qu'il est là, celui-là. Forcément. Parle-nous du contexte. Est-ce que tu as les infos fraîches à nous donner? Donc, le parcage marseillais, on le rappelle, qui est regroupé à quelques centaines de mètres de l'aéroport, hein, sur une plage. C'est assez cocasse comme situation. Mais pour l'instant, pas de heure à signaler aujourd'hui, hein, Flo.
Non, aujourd'hui ça se passe bien, on va suivre ça, parce qu'évidemment le moment de tension, ce sera notamment l'arrivée au stade, et ça ne va pas tarder. Le parcage qui peut contenir 450 à 500 supporters marseillais, il y a énormément de camions de CRS juste derrière, et puis effectivement, pour ceux qui connaissent ce stade, bah, c'est un accès qui est assez particulier. Il n'y a véritablement qu'une seule route, en plus qui sera non pas coupée à la circulation, mais qui sera à sens unique. Donc en fait, voilà, tout le monde se croise à un moment ou à un autre, et effectivement le parcage, quand il va arriver, même quand le bus de l'OM va arriver, souvent ça crée quelques tensions, quelques étincelles. Donc on va suivre ça avec attention, et on va croiser les doigts pour que la tonalité de la journée soit celle de la soirée également, et qu'on ne retrouve pas des heurts et des violences, celles dont on a beaucoup parlé hier soir.
Ce qui est dommage, c'est que, comme on le disait, il n'y a pas d'enjeu sportif pour les deux équipes d'ailleurs, hein, Sébastien. C'est ça qui est fou, c'est qu'Ajaccio est 19e déjà relégué, Marseille est sûr de terminer 3e ce championnat.
Ouais, parce que bon, même s'il y avait des enjeux, on n'aimerait pas voir ça.
Oui, c'est sûr, t'as raison.
Mais c'est vrai que là, pour le coup, les deux équipes
ont un peu plus de tension.
Voilà, n'ont plus rien à jouer. Mais comme disait Flo, c'est la crainte, elle est surtout après le match, quoi. Parce que bon, pour tous ceux qui vont dormir sur place, qui auront ou l'avion demain matin, au mieux, ou éventuellement même le bateau demain soir, il peut se passer beaucoup de choses. On va espérer, croiser les doigts, que ça se calme, parce que franchement, on n'a pas envie de voir ça.
Exactement. 18h34, parlons donc du sportif. Florent Germain, c'est l'info de la semaine. Igor Tudor qui a annoncé son départ officiellement. Il sera resté finalement une seule saison. Marseille, qui est donc troisième, qui est qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Déjà, cette fin d'aventure pour Tudor, comment ça a été vécu par les joueurs cette semaine? Est-ce qu'on s'y attendait? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que c'est de la surprise?
Non, mais en interne, et pour rien vous cacher, c'est d'ailleurs pour cela que sur RMC, on avait senti les choses venir, et dès le week-end dernier, on a évoqué une tendance très claire au départ. Ça vient aussi et surtout du fait que dans le vestiaire, on savait qu'il allait partir. Donc en fait, ça n'a pas été du tout une surprise au niveau des joueurs, au niveau du staff technique non plus. Donc en interne, dans le secret du vestiaire marseillais, on n'avait aucun doute sur le futur d'Igor Tudor. Je n'arriverai pas à le situer, si c'est depuis une quinzaine de jours ou plus. Mais
c'est depuis quand?
Moi, en fait, alors, sur les quelques derniers matchs, je trouvais un peu moins impliqué.
Un peu effacé, un peu moins concerné.
Mais même des fois, on le voyait assis sur son banc.
Depuis Lille?
Ouais. Je le trouvais moins impliqué. Ouais,
Alors, je pense, c'est un sentiment que sa décision, il l'a prise depuis bien longtemps, et que le fait de perdre à Lens a été une cassure psychologique globalement dans le groupe, mais aussi chez lui, encore plus à Lille, où là on s'est rendu compte que c'était fini pour la deuxième place. Et derrière, de ses conférences de presse, de ses prises de parole, de son body language, de tout ce que vous
Parce
voulez,
que toi, tu le sens au quotidien,
transpirait le fait qu'il allait partir. On ajoute à ça des infos qu'on pouvait avoir, des témoignages en interne. Il y avait quasi quasiment peu de doutes, sauf que le problème c'est que les dirigeants sont très malins, sont très secrets et personne ne voulait le confirmer. Il y avait un peu du poker menteur aussi, donc on a voulu rester prudent. Mais voilà, du côté des joueurs, alors comment ils l'ont vécu, il y a eu cette annonce officielle jeudi, enfin au groupe, hein, dans le secret du vestiaire juste avant la séance. D'ailleurs, cette séance là, il y a eu des gestes peu habituels, c'est-à-dire que les joueurs venaient souvent lui taper dans la main dès qu'ils le croisaient. Enfin, on sentait que
il a pas reçu un câlin de Dimitri Payet.
Non. Ah ouais. Bah justement, tu me tends la perche là-dessus. Honnêtement, pour certains, c'est un soulagement.
Bah oui, alors on va en parler parce que c'est l'enjeu important et puis c'est la conséquence du départ d'Igor Tudor. Est-ce que ça modifie les plans de carrière de certains joueurs? On sait qu'il était en froid avec plusieurs cadres du vestiaire. On pense à Dimitri Payet évidemment, qui avait été écarté, souvenez-vous, au matin avant de partir à Lens, hein, je crois, c'est bien ça, Flo. On pense également à Matteo Guendouzi, des joueurs qui, si jamais Tudor était resté entraîneur, eh bien, aurait songé à quitter le club de l'OM.
À Lille, non ?
À Lille, tu as raison. À Lille, ouais, avec Nuno Tavares. Est-ce que ça modifie les plans de certains joueurs ? Est-ce que tu as des infos là-dessus ? Est-ce qu'on est soulagé chez les joueurs
ou les plans de l'OM plutôt ? Parce qu'après,
les plans de l'OM. Globalement, ça ne va quasiment rien changer. Parce que en fait, même si c'était pas toujours rose, enfin, il y a eu parfois aussi quelques désaccords entre les dirigeants et Tudor, ou plutôt les dirigeants avaient conscience que le coach croate, il était parfois un peu rigide, que voilà, son management, il créait quelques tensions. Donc, malgré ça, ils l'ont toujours soutenu et ils sont d'accord sur, en gros, les joueurs que lui, il avait un peu mis de côté. Donc, enfin, en fait, les dirigeants.
Vous savez tous les deux, comme moi, comment fonctionne un Dimitri Payet, beaucoup dans l'affect, etc., la relation forte avec son entraîneur. Voir Tudor partir, peut-être que ça le motive à jouer à fond sa dernière saison de contrat.
Sauf que les dirigeants marseillais, je pense, ne vont pas vouloir garder Dimitri Payet une saison de plus.
En tant que joueur, ok.
En tant que joueur. Donc, à mon avis, on devrait essayer de trouver une solution pour un prêt
un peu à la Steve Mandanda, c'est-à-dire.
Mais peut-être. Ou si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il restera. Mais du côté des dirigeants, en tout cas, ce serait à contre-cœur, je pense, hein, parce que les dirigeants ont été très, très critiques envers Payet. Ont toujours soutenu Tudor, même si Tudor a parfois été aussi dur avec Dimitri Payet. Donc, pour moi, pour Payet, ça change pas grand chose. Pour Guendouzi, là où ça change pas grand chose, c'est que quoi qu'il arrive, s'il y a une offre importante, lui est une valeur marchande de l'OM, et l'OM aura quand même besoin de vendre, et
notamment si, en première ligue.
Voilà. Et s'il y a une offre intéressante, Tudor ou pas Tudor, l'OM le vendra. Puis après, les autres joueurs qui étaient un peu en froid, les Eric Bailly, les Nuno Tavares, leur avenir est plus ou moins scellé. Donc en fait, ça n'a pas d'influence. Le départ de Tudor ne change pas grand-chose.
Mais Flo, je pense quand même que ils vont essayer de trouver un entraîneur, pas le copier-coller de Tudor. Mais ils vont vouloir rester un petit peu dans ses caractéristiques à lui, parce qu'ils aiment les entraîneurs à la mode ou à la sauce italienne, un peu avec beaucoup de rigueur. C'est ce que j'ai pu apprécier quand même dans le mode Tudor. Hein, là-dessus, il faut pas se leurrer, quoi. Et donc, je pense qu'ils vont aller chercher un peu ce genre d'entraîneur. Alors, peut-être un peu moins rigide, mais en tout cas dans la structuration de ces joueurs qui vont arriver.
Tu vois une certaine continuité dans la recherche.
Je pense.
C'est la question que j'ai posée précisément hier soir, mais j'ai eu la réponse un peu plus tardivement en espagnol. Hein, donc, faites-vous une idée, mais je ne donnerai pas le nom à un dirigeant. Ouais. Quel est un peu le portrait robot du coach ?
J'ai deux noms en tête.
Non, mais c'est pas un nom que je voulais, parce que je suis pas en ambitieux. Ah oui, non, je parlais de dirigeant, évidemment. Et voilà, pression alto, donc pressé haut, juego vertical, donc on s'est compris, hein, le jeu vertical, comme là je suis en train de dire ce que j'ai sous les yeux, hein, c'est pour ça que je l'ai fait en espagnol. Et j'ai bien aimé la petite phrase, la possession estéril ne sera nunca notre style.
Donc pas de retour sans
la possession stérile ne sera jamais notre style.
Ok.
Au moins c'est clair.
Donc c'est de la ça ressemble à de la continuité. Quand
voilà. Et j'ajoute rigor et intensidad non négociable. Voilà, c'était là, comme ça.
C'est bien, c'est pour ça que c'est le meilleur, Florent Germain.
Ouais, le foot un peu moderne, quoi. Donc.
Donc moi je pense qu'on est sur un profil un peu à la Tudor, mais un paramètre très important qui a compté aussi, je l'ai dit, dans le fait que Igor Tudor, il avait un petit peu moins la cote vis-à-vis des dirigeants ces derniers temps,
ouais.
C'est il a pas su s'adapter tactiquement parfois sur certains gros matchs. Et ouais, donc on n'aura pas forcément le même système de jeu, et je pense qu'on aura un coach qui parfois sera un peu plus souple et malléable sur son système de jeu, une capacité à s'adapter parfois. Ça veut pas dire que voilà, on gardera ce même style de physique intense, intensité, etc. Mais par contre, peut-être ce sera de temps en temps un 4-4-2, peut-être de temps en temps un 4-2-3-1.
Moi j'avais une idée,
on s'adaptera
mais bon,
plus.
Il y a Benoît,
de coach.
Bah, tu peux y aller, vas-y.
Non, j'avais Ivan Juric qui
Qui est le même style.
Qui est au Torino. Non, mais il est quand même beaucoup plus ouvert. Oui, il a
ancien coéquipier. Ouais.
Ouais, et puis et puis surtout joueur de Gasperini. Donc et forcément, voilà. Oui, dans le système, oui, mais quand même un peu plus malléable. Voilà. Bon, après, mais je pense qu'ils vont essayer de le trouver. Ils vont essayer de le trouver en Italie. Et après, sinon, ouais, il y a Christophe Galtier au pire. Sinon.
Ouais. Ou coach Courbis dans la shortlist, non, Flo Germain. C'est pas l'actualité.
Pourquoi pas. En Italie, en Espagne ou en Argentine.
Ah ouais, pourquoi pas.
On verra. Ah ouais. Non, c'est vrai que le nom de Marcelino avait été évoqué. On m'a dit que ce serait pas lui, mais il y a toujours une part de bluff, donc peut-être que ce serait lui. Mais en tout cas, Pablo Longoria l'aime beaucoup. C'est un ami hein, à lui. Hein, donc et puis il estime justement que lui pourrait faire cette continuité avec Igor Tudor. Mmh. On verra. Et Marcelo Gallardo, ça c'est sûr que ce serait un entraîneur d'un énorme charisme. Par contre, est-ce
qu'il connaît bien les couloirs du Vélodrome hein.
Ouais. Non, c'est plus le même. Il a changé, t'inquiète. Ouais. C'est plus le même couloir.
Galtier aussi, en vrai.
Mais est-ce que Seb, là-dessus, ton avis sera précieux, mais est-ce qu'un coach d'un charisme comme Gallardo, je me suis renseigné avec des joueurs argentins qui le connaissent très très bien,
ouais,
qui me disent que lui, s'il arrive, c'est pas pour être troisième. Hein. Il va demander énormément de moyens, il va demander des garanties, etc. Donc, toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que ça colle avec le fonctionnement mercato d'un Pablo Longoria ou d'un Javier Ribalta?
Non. Bon. Ah non, voilà, du tout. Bah, c'est de toute façon, on n'a même pas évoqué le mercato en termes d'arrivée, parce que de toute façon, c'est eux qui décident vraiment. Ils dessinent pas le mercato avec l'entraîneur. C'est eux qui décident.
C'est pour ça. Donc ouais, moi, du côté de l'Argentine, on m'a dit que ça collait pas trop à la philosophie de Gallardo. Ouais. Mais bon, on sait jamais. Il y a tellement eu de surprises dans le foot que maintenant, moi, je veux jamais être définitif sur un truc, hein. Mais
surtout à Marseille.
Ouais.
C'est l'expérience exactement qui parle. Bon, et juste pour terminer, pour conclure, on te retrouvera évidemment tout au long de la soirée et puis à 21h pour le coup d'envoi d'Ajaccio Marseille. Une idée de la tendance de la compo marseillaise. Est-ce qu'il va récompenser ses fidèles soldats ce soir, Igor Tudor? Est-ce qu'il va rester strict pas... et droit dans ses bottes?
Ouais, il y aura pas énormément de surprises, ouais, si ce n'est ce qui était pressenti, c'était que Blanco ait plus et du temps de jeu, tout simplement, dans les buts. Pourquoi pas, ouais, Ruben Blanco qui aurait été un numéro 2 discret dans l'ombre de Paul Lopez.
Blanco qui a su s'effacer, lui.
Ouais. Exactement, ça passe. Pour le reste, voilà, je pense qu'un Sanchez, Ajaccio, pas Ajaccio, en jeu, pas en jeu, il veut marquer son 15e but de la saison en Ligue 1. Donc il y aura les titulaires habituels et j'espère que Vitinha aura aussi du temps de jeu, puisqu'il faut qu'il se mette en confiance.
Vraie question, peut-être dernier match pour Alexis Sanchez aussi, on ne sait pas encore.
Ouais, je sais pas. Les dernières news, c'est que ça négocie encore et que
il y a de l'espoir.
Peut-être qu'effectivement, il a besoin d'avoir des garanties sur le futur coach et sur le système de jeu.
Flo, je souris parce que la saison s'arrête sportivement, mais elle est loin d'être terminée pour toi avec l'OM.
Oui. Mais enfin bon, après.
Sur le bureau. Que...
Après, on prendra peut-être des vacances aussi. Hein.
Non, tu restes jusqu'au bout tant que tout n'est pas ficelé. Tu restes
tu
là.
Tu partiras en stage avec les joueurs de l'OM.
Voilà, hein, certainement. En plus.
Parce que il y a un tour préliminaire début août. Hein.
Et puis, on espère deux. Et puis, même une qualification.
Il y a un mois d'août chargé hein, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, RMC Sport avait fait un article là-dessus.
Exactement.
Le mois intense d'août de l'OM, ça peut être quelque chose.
Bon, merci Flo. En tout cas, on te retrouve à partir de 20h dans l'avant-match, dans l'after live, évidemment, autour de Thibaut Giangrande. Et puis, le coup d'envoi de ce Ajaccio-Marseille à partir de 21h. Merci Florent Germain. 18h45, on revient dans un instant. On va parler de l'enjeu individuel de la soirée, Sébastien Piocelle, qui terminera meilleur buteur de Ligue 1? Est-ce que c'est une nouvelle fois Mbappé qui va aller chercher un cinquième sac consécutif ou est-ce que c'est Alexandre Lacazette, son principal concurrent, qui a marqué un but de moins et qui joue à Nice ce soir? On fait le point dans un instant avec Timothée Mémon. Tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
18h48 sur RMC l'Intégral Foot avec le grand Sébastien Piocelle jusqu'à 20h. On lance évidemment la grande soirée de Ligue 1 qui vous attend la 38e journée. tous les matchs à suivre en direct et en simultané à partir de 21h. Et nous, dans un peu moins d'un quart d'heure, on fera le point sur la lutte pour le maintien entre Auxerre et Nantes. Les infos avec nos correspondants, coach Corbis qui va nous rejoindre, et un invité, le héros nantais de 2005, Mamadou Diallo, auteur du but qui a maintenu les Canaries à l'époque. Mais Sébastien, on le disait, on va parler dans un instant de la bataille pour le titre de meilleur buteur. Ce sera juste après un petit détour par Roland Garros avec Anthony Reich. Il fait très beau sur Paris aujourd'hui, les internationaux de France. Et on a un vrai duel entre Chirundolo, l'Argentin, et Fritz, l'Américain, Anthony. Hein.
Ouais, et Taylor Fritz qui est en sérieuse difficulté dans ce troisième tour face à l'Argentin, puisque la tête de série numéro 9 est désormais menée 2-7-1 par Francisco Cerundolo. Il a pris la troisième manche 6-4 et il a fait le break, l'Argentin, aussi dans la quatrième manche. Il mène désormais 3-2. Ça va être très très serré et très difficile pour Taylor Fritz peut-être de s'en sortir pour aller chercher un huitième de finale ici à Roland-Garros.
Et je rappelle aux passionnés de tennis, si jamais vous voulez suivre tous les matchs de Roland-Garros en direct, en intégralité, si vous voulez tous les résultats actualisés toutes les demi-heures, vous allez sur les applis d'RMC sur votre smartphone et vous cliquez sur 100% Terre battue. C'est la radio digitale consacrée à ces internationaux de France. Merci Anthony, on te retrouve rapidement 18h50 sur RMC. La bataille donc pour terminer meilleur buteur de Ligue 1, je vous rappelle le classement actuel. Mbappé est en tête avec 28 buts, un de plus qu'Alexandre Lacazette. Le Parisien vise un cinquième titre d'affilée. Il égalerait un certain Jean-Pierre Papin. Lacazette, lui, veut refaire le coup de 2015. C'est le dernier joueur hors PSG à avoir remporté le trophée, Alexandre Lacazette. On en parle avec Timothée Mémon, qui est à Nice, puisqu'il commentera Nice-Lyon ce soir. Salut Timothée.
Salut Benoît, salut Seb, salut à
salut
tous.
Tim. Bon, soyons clairs, c'est l'enjeu de la soirée pour les Lyonnais. On parle d'une hypothétique qualification pour la Coupe d'Europe, mais là c'est tout pour Lacazette à Lyon ce soir.
Ouais, ce serait effectivement très hypothétique ces qualifications pour la Coupe d'Europe. Il faut un scénario qui semble peu vraisemblable. Effectivement, cette équipe de Lyon va être derrière son buteur, derrière son capitaine, derrière son leader. Ryan Cherki l'avait d'ailleurs dit il y a deux semaines de cela, à l'issue d'une rencontre à domicile. Il avait expliqué que la course au meilleur buteur allait être chaude, allait être bouillante, et que tout l'Olympique lyonnais serait derrière Alexandre Lacazette pour lui permettre de prendre le titre de meilleur buteur à Kylian Mbappé. Évidemment, cette équipe lyonnaise est derrière ce joueur parce qu'il est emblématique, parce qu'il a sorti l'équipe de l'OL de l'ornière bien des fois cette saison. Et Alexandre Lacazette sera porté. S'il y a un pénalty, ce sera évidemment pour lui. C'était déjà le cas depuis le début de la saison. Mais probablement qu'on va lui laisser les coups francs et toutes les possibilités pour essayer d'aller marquer pour passer devant Mbappé. Les corners, s'il veut tirer direct, il les tirera.
Il peut. Une Di Maria, pourquoi pas. Mais alors, c'est pas facile sur le papier pour Alexandre Lacazette. Déjà, il a un but de retard. Ensuite, Mbappé joue ce soir contre Clermont au Parc des Princes et on sait à quel point il est attaché au record personnel. Rappelle-nous également ce qui se passe en cas d'égalité. Là aussi, il a un désavantage, hein, d'ailleurs, Timothée.
Oui, il a un désavantage, Alexandre Lacazette. En cas d'égalité, ce serait Kylian Mbappé qui serait probablement sacré meilleur buteur parce qu'il a inscrit moins de buts sur pénalty, notamment depuis le début de la saison. En tout cas, ce qui est intéressant, au-delà de ce duel entre Mbappé et Lacazette, c'est de voir qu'il y a une incroyable densité cette saison.
Ça, c'est vrai, t'as raison.
Ouais, de joueurs à plus de 20 buts. Ils sont 6 cette saison. Donc, en plus de Mbappé et Lacazette, il y a Jonathan David, Loïs Openda, Diallo, Balogun, Wissam Ben Yedder, en cas de doublé aujourd'hui, pourrait passer au-dessus de 20 buts. Pardon, en tout cas, devrait arriver à la barre des 20 buts. Ce serait absolument hallucinant. Il faut rappeler, par exemple, qu'il a parfois suffit de 18 buts pour être meilleur buteur de la Ligue 1. C'était le cas de Mamadou Niang en 2010-2011. 4 buteurs au-dessus de 20 buts lors de la saison dernière. Il y en avait 3 en 2020, seulement 2 en 2018-2019. Bref, c'est une vraie performance, la preuve qu'il y a des talents dans cette Ligue 1. Et puis pour redescendre un petit peu la jauge, on a 10 joueurs à plus de 15 buts cette saison. C'est tout simplement une première depuis plus de 45 ans.
Ah oui, ça veut dire quelque chose. Donc les avançantes, parce que souvent ils sont avançantes, se sont illustrées dans ce championnat de Ligue 1 2022-2023. Un mot tout de même sur Lacazette, Sébastien. Peut-être qu'on a du mal, même nous, à réaliser la saison qu'il est en train de réaliser. Lui qui est de retour à Lyon après 5 ans d'exil à Arsenal. Il est revenu, il a immédiatement porté le brassard de capitaine. Et lui, il a été à la hauteur de son statut, quoi. Lui, il a vraiment fait une saison pleine. 34 matchs, 27 buts pour l'instant.
Ouais, je suis même surpris. Alors, pas que je doutais de Lacazette, mais on a vu sur ces années d'Arsenal, ça a été quand même compliqué par moments. En tout cas, en termes notamment de statistiques. Après, dans la participation au jeu, c'est une de ses qualités. Mais au-delà des buts, c'est aussi dans le leadership, c'est-à-dire il prend ses responsabilités. C'était quasiment à chaque fois le sauveur ou l'un des sauveurs quand Lyon était en difficulté. On aurait pu imaginer que si Lyon avait réussi une meilleure saison, ça aurait pu être un peu plus haut encore. En tout cas, bon, ça augure de bonnes choses pour la saison prochaine. Si Lyon se renforce, on voit qu'on a quand même un Lacazette vraiment à la hauteur.
Y a pas de suspense pour toi, c'est Mbappé qui terminera meilleur buteur ou tu penses qu'il y a match quand même?
Il peut y avoir match. C'est vrai, quand on regarde les deux oppositions de ce soir, bon, il y a Paris qui joue à domicile, Lyon qui joue à Nice, mais bon, Nice qui est a priori très très amoindri, ouais. Qui est pas du tout dans une bonne dynamique. Au contraire de Clermont, même s'ils viennent jouer au Parc, c'est une équipe qui peut venir embêter le Paris Saint-Germain. Il y a cette longueur d'avance, en tout cas des deux côtés. Je pense qu'on fera en sorte que leur buteur marque au moins une fois ou deux.
Tiens, je vous pose une colle à tous les deux, mais je pense que Timothée a bossé son match. Derrière Lacazette à Lyon, vous savez qui est le deuxième meilleur buteur ?
Waouh, la colle.
Non mais c'est fou. Alors c'est Bradley Barcola, vous savez combien de buts il a inscrit ?
Ça, j'allais le dire. Tu
vois. 5. 7. 5. Il a mis 5 buts. Donc Lacazette a cartonné avec 27 buts. Le deuxième meilleur buteur lyonnais, c'est Barcola avec 5 buts. C'est dire l'importance de Lacazette.
Et là, pour revenir au buteur, aussi un joueur comme Diallo dans une équipe, oui, vraiment, vraiment Diallo, en difficulté, hein, qui a obtenu son maintien que le week-end dernier. Ouais. Là aussi, heureusement, et d'ailleurs, ça, on l'a vu avec l'arrivée de Fred Antonetti, puisqu'il se connaissait déjà, je pense qu'il y a eu aussi une sorte de déclic pour lui.
Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et c'est révélateur d'ailleurs. Plus largement des stats que je vous donnais un petit peu plus tôt au niveau de l'ensemble du championnat,
eh oui.
C'est que on a beaucoup de buteurs, on a 6 buteurs donc au-dessus des 20 buts, on a 10 buteurs au-dessus de 15, mais ça veut pas dire que la Ligue 1 a forcément marqué beaucoup plus de buts. La saison dernière, il y a eu 1067 buts marqués. Cette saison, il y en a eu 1037. Alors évidemment, avec les matchs de ce soir, on peut arriver à une zone à peu près similaire. Il y aura à peu près le même nombre de buts, mais c'est vraiment que les buteurs se sont mis en avant.
Ouais.
En revanche, les autres, l'écart se fait un petit peu plus large.
Tout
avec
planqué, quoi. C'est ça l'histoire.
C'est un peu l'idée. Voilà.
Bon, merci Timothée. Tu seras au commentaire donc de Nice-Lyon ce soir à 21h sur RMC. C'est l'un des enjeux qui terminera meilleur buteur. On suivra également avec beaucoup d'intérêt PSG Clermont avec Fabrice Hawkins. Ce duel entre Mbappé et Lacazette. Mbappé pour l'instant 28 buts. Lacazette 27, Mbappé qui pourrait égaler Jean-Pierre Papin. Cinquième année d'affilée, terminé meilleur buteur de Ligue 1, c'est quand même quelque chose, hein, Seb.
Bah, c'est impressionnant. Bon, là, dans la régularité, puis des chiffres aussi hauts. Là aussi, ouais. Dans une année, avec la Coupe du Monde au milieu, ouais. Donc un petit peu aussi tronqué. Donc forcément, ça reste impressionnant.
Merci Timothée. À tout à l'heure, 18h56 sur RMC. Nous, on revient, Sébastien. Ça y est, c'est le moment. On va parler de la lutte pour le maintien. On va parler de ton FC Nantes, qui va surveiller avec beaucoup d'attention ce qui se passe à Auxerre, entre Auxerre et Lens. Qui descendra entre Nantais et Auxerrois? Coach Courbis va nous rejoindre. On sera avec nos correspondants, avec Jeannot Rességuier qui est à la Baie des Champs, avec Pierre-Yves Leroux à la Beaujoire, et un invité, un héros en 2005 qui a permis à Nantes d'arracher un maintien inespéré, Mamadou Diallo, qui sera en direct avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron.
L'intégral foot sur RMC jusqu'à 20h avec Sébastien Piocel, évidemment. Et un deuxième membre de la Dream Team nous rejoint. On vous l'a dit, on lance la 38e journée avec toutes nos stars. C'est Coach Courbis qui fait son entrée en studio. Salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Salut Roland, t'es en pleine forme?
Ben ouais, on vient un petit peu de parler de football, tu vois.
Ah ouais?
Ben ouais, je te promets.
Mais où ça?
Ben où ça? BFM.
Ah d'accord.
On a parlé de football. Bon, on a parlé de supporters, on a parlé de... d'Ajaccio au web, il paraît qu'il y a un match avec un gros enjeu là, pas parce que les supporters entre eux. On ne sait pas encore.
Heureusement qu'il n'y a pas d'enjeu d'ailleurs.
Ah ouais, on ne sait pas encore si Ajaccio va descendre, on ne sait pas si l'OM va terminer second, donc c'est pour ça que tout le monde est énervé et donc on a envie de se taper dessus. En plaisanterie mise à part, ce qui se passe là, c'est décevant et complètement anormal. Et moi, je suis surpris parce que j'ai jamais vu du côté d'Ajaccio. Des Ajacciens qui étaient contre l'OM. J'ai jamais vu ça.
Mais Roland, quand tu fais les deux médias comme ça, il paraît que tu te retiens sur BFM pour regarder la quintessence de tes analyses sur RMC. C'est bien le cas?
Non, j'essaie de faire ce que je peux.
Bon, on l'a dit, on lance la 38e et dernière journée de Ligue 1, les 10 matchs à suivre en direct à 21h ce soir. Dans un instant, le principal enjeu, on a attendu Coach Courbis pour parler de cette lutte pour le maintien qui, de Nantes ou d'Auxerre, sera relégué en Ligue 2 ce soir. Pierre-Yves Leroux et Jeannot Rességuier seront avec nous. Et puis un invité, un héros nantais de 2005. Celui qui a permis au FC Nantes d'aller chercher un maintien inespéré, Mamadou Diallo, sera en direct avec nous. Et puis à 19h30, messieurs, on parlera de la course à l'Europe. 3 clubs en lice pour la 4e place, synonyme de Ligue Europa. Lille, Rennes et Monaco. On fera le point là aussi avec nos correspondants. C'est reparti pour l'Intégral Foot. Et toujours du tennis, évidemment, à Roland-Garros. Il fait beau, il fait chaud et c'est tendu. Un peu de tension en ce match entre Cerundolo et Taylor Fritz. C'est la fin du troisième tour, Anthony Resch.
Ouais, c'est très tendu. Et là, il y a même Taylor Fritz qui demande des explications à l'arbitre et le public prend un malin plaisir à le siffler. L'histoire d'amour continue entre Roland-Garros et l'Américain. L'Américain qui est d'ailleurs mené 4-3 4-3 dans la quatrième manche. Il est mené 2-7-1 par l'Argentin Cerundolo qui est en train de créer la sensation, mais qui sert. Cerundolo, il a l'occasion de revenir à 4 partout. Combat épique de plus de 2h30 de jeu déjà.
Et Roland, si jamais tu veux écouter Roland Garros en intégralité, tu vas sur ton smartphone, tu télécharges l'appli d'RMC et tu cliques sur la radio 100% terre battue, la radio digitale.
Je jongle avec parce que j'ai gêné deux, tu vois, tac.
Voilà, comme ça tu ne loupes rien, Roland Garros. Les matchs en intégralité, le rappel des résultats toutes les 30 minutes. Messieurs, je le disais, la soirée s'annonce longue pour les supporters nantais et auxerrois. Sébastien Piocelle sait de quoi je parle. Les deux clubs vont se livrer un duel à distance pour ne pas descendre en Ligue 2 et accompagner Angers, Ajaccio et Troyes. Nantes reçoit Angers dernier. Auxerre accueille Lens, assuré de terminer deuxième. Rappelons que mathématiquement, Nantes est en position défavorable, 17e avec 2 points de retard sur Auxerre, mais une meilleure différence de but. Donc pour résumer, les Nantais sont dans l'obligation de l'emporter pour conserver un espoir. Si Nantes bat Angers, Auxerre, de son côté, devra impérativement battre Lens pour se maintenir en Ligue 1. Jeannot Rességuier est en direct de la Baie des Champs. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde, bienvenue.
Pierre-Yves Leroux est en direct de la Beaujoire. Salut Pierre-Yves.
Salut à tous.
Salut les amis.
Petit mot d'ambiance chez vous. J'ai envie de démarrer à Nantes parce qu'il y a une info importante à rappeler, Pierre-Yves Leroux. Pas de supporters ce soir dans la tribune Loire et ça, c'est préjudiciable pour les Nantais. Hein.
Oui, exactement. Cette tribune qui se situe sur ma droite, là, qui donne le la de l'ambiance très régulièrement ici, eh bien, elle se aura vite 6500 personnes en moins. Le reste du stade était déjà vendu, donc on a remboursé les places. Il se murmure que certains ont quand même réussi à rentrer. On verra ça tout à l'heure. Et puis pour ce qui est de la photographie de l'ambiance, actuellement, juste à la sortie du stade, déjà un bon nombre de supporters des Canaries attendent que les joueurs arrivent dans leur bus pour les acclamer, les pousser pour aller chercher cette victoire indispensable avant d'éventuellement regarder avec les jumelles ce qui se passe du côté d'Auxerre.
Jeannot, est-ce que l'ambiance monte alors à la Baie des Champs, à Auxerre?
Tout doucement, ouais. Parce que je peux te dire qu'en ville, pour avoir croisé pas mal de supporters, ils font un petit peu de l'huile et ils ont quand même la crainte, tout simplement, que ça se passe pas bien. Il y en a d'autres qui sont plus optimistes et ceux-là sont déjà autour du stade. Les portes s'ouvrent à peine là, ouais. Depuis qu'on vient de prendre la parole. Et alors, petit changement par rapport à d'habitude, même si on sera à guichet fermé, même s'il n'y aura pas de souci de fermeture partielle, et on y a eu quelques craintes avec l'histoire de la banderole face au Paris Saint-Germain, on est resté jusque sur une amende. Il n'y aura pas de haie d'honneur pour les joueurs, comme d'habitude, avec l'arrivée du bus et les ultras au Serrois. C'est une demande du club, ça simplement bon signe, pour les garder un petit peu plus au calme. Je ne répondrai pas aux attaques de pile avant la tempête. Parce que
moi, j'aurais pas changé. Hein.
Depuis le 29 avril, si tu veux, pile, je suis plutôt confiant. Voilà.
Depuis que vous avez fait la finale de la Coupe de France tous les deux, mauvais souvenir pour Pierre-Yves Leroux.
Il y aura une grosse ambiance, c'est une évidence, parce qu'il y a toujours eu ça à Auxerre, et malgré les mauvais résultats.
Je vous demande un feeling. Coach Courbis et Sébastien Piocelle, Seb évidemment subjectif sur la question, parce qu'il est supporter du FC Nantes. Roland, comment tu vois cette soirée, à ton avis, qui sera le grand battu, qui va être relégué en Ligue 2 à l'issue de ces matchs?
Je vois les deux équipes gagner leur match à domicile.
Ah bah voilà, donc la réponse.
Et malheureusement, c'est Nantes que je vois descendre. Mais si c'est comme ça que ça se passe, on analysera quand même quand Nantes.
Ah bah oui. Ah, c'est sûr.
Et descendu, c'est pas la 38e journée.
Ah oui, aucune victoire en championnat depuis le 12 février. Seb, je te demande quand même.
Non, après, j'ai envie de croire au scénario idéal pour les Nantais. Donc déjà battre Angers. On rappelle que Nantes n'a pas gagné un championnat pile depuis 4 mois, c'est ça?
Depuis le 12 février.
Voilà, depuis le 12 février.
Pile avait des cheveux.
Voilà.
Donc, déjà, en plus, ce sont deux clubs amis, hein, donc Nantes et Angers.
Ouais.
Non, mais c'est pas Bordeaux ou Saint-Etienne non plus.
Voilà, découvert la rivalité, ouais, c'est vrai.
Ouais, donc c'est la première des choses. Déjà, bon, regagner un match. Et puis c'est vrai que même si Lens n'a plus rien à jouer, Auxerre, bon, c'est à domicile, c'est jamais évident. J'espère que Lens va jouer le jeu. Donc, Au vu de la prestation de Nantes la semaine dernière, j'avais été assez sévère avec eux à juste titre, mais même avec cette défaite, j'avais trouvé quand même plus entreprenant, plus vaillant, le retour de Chirivella, tout ça. Mais moi aussi, j'ai bien peur qu'Auxerre fasse le taf à domicile et que du coup, tu descendes.
Je vous livre une officialisation. Ça y est, tremblement de terre. Paris et Messi, c'est fini. Ça y est, le club vient de l'officialiser. Donc, départ de Léo Messi à l'issue de la saison. Officialisation à moins de 2 heures du coup d'envoi ce soir au Parc des Princes. Donc, une soirée d'adieu ce soir au Parc pour Sergio Ramos et pour Léo Messi, deux joueurs qui quitteront le club. On rappelle également l'info à RMC Sport que l'on vous confirme le départ également acté de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien. Paris reçoit clairement à 21h sur RMC. La grande question, Jeannot, oui. Pierre-Yves, Seb et Roland, c'est est-ce que Lens va jouer le jeu? Est-ce que tu as des infos à nous donner?
Alors déjà, ce qui est clair, c'est que il y a deux joueurs qui seront pas titulaires ce soir. En tout cas, ça a été annoncé par Franck Hez, parce qu'ils sont sur le coup d'un carton jaune et parce que s'ils prennent un jaune ce soir, ils seraient suspendus lors de la première journée. On est quand même tourné vers la prochaine saison. C'est Samba remplacé par Leca et Medina remplacé par Aïdara. Ça, c'est semble-t-il, j'ai envie de dire du concret. On va voir. Peut-être que ça sera une modification de dernière minute, mais d'après ce que nous a dit Jean Baumet, notre correspondant dans le Nord, ces deux-là ne joueraient pas. Et après, il y a l'interrogation autour de Sotoka et de Fofana. Franck Hez a fait savoir que les joueurs étaient fatigués et qu'il y avait eu un relâchement psychologique, notamment après la deuxième place assurée, et donc cette Ligue des Champions qu'ils retrouveront 20 ans après. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en conférence de presse, il a été clair. Il a dit que l'équipe de Lens allait jouer le jeu, donc on s'attend à quelque chose de tout à fait normal, même si, encore une fois, au niveau de la composition d'équipe, on sera loin du 11 de départ traditionnel, ou j'ai envie de dire référent par rapport à cette belle saison des 100 et or.
Ils vont jouer le jeu, mais avec moins de qualité et avec plus de fatigue, quoi. Mais ils vont jouer le jeu quand même.
Ouais. Bah, après, quand tu as Fulgini, Thomasson.
Ils vont pas se tourner et marquer des buts contre leur camp.
Ouais, non, mais ils vont jouer, quoi.
Thomasson, Fulgini, Openda ou Claude Maurice, c'est quand même pas inintéressant.
Openda et notamment ses coéquipiers vont tout faire pour qu'ils puissent marquer et s'approcher du classement des buteurs.
Alors il a 20 buts, hein. David est à 24, donc déjà du podium il est à 4 buts, alors que David, l'attaquant de Lille avec un objectif européen, se déplace à 3. Après, il est quand même loin de la Lacazette 27 et loin de Mbappé 23.
Après, c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle qu'il y ait du turnover, parce que ceux qui vont jouer, eux, seront motivés, auront envie de jouer et de s'investir aussi, on peut se dire ça, parce que un joueur fatigué qui est sur le terrain et qui se fait malmener dans les duels a peut-être envie de se dire bon, il y a pas grand chose à jouer.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, Benoît, mais ne perdons pas de vue que c'est pas avec 11 joueurs qu'il a fait la saison qu'il a réalisé, Francaise. C'est avec un groupe et avec
il y avait
des situations un peu particulières, souvenez-vous, avec les suspensions d'Abdoul Samed. Enfin, il y a eu des moments un petit peu délicats. Il y a eu des moments où Fofana, l'incontournable capitaine, était dans le dur. Donc c'est pas avec 11 joueurs qu'il a fait la saison qu'il a fait.
D'accord, mais dans tous les cas, Jeannot, il y a 3 semaines de ça, quand on parlait des équipes qui pouvaient descendre, en Strasbourg c'était bon, Brest c'était ok, c'était entre Nantes et Lens. Et on disait la chance de Nantes, ça sera peut-être si Lens n'est pas obligé de faire un résultat à Auxerre. Donc et là c'est le cas. Donc normalement les Nantais auraient préféré, ce qui est tout à fait logique, que les Lensois soient obligés
de ça. C'est une lapalissade, coach.
C'est une lapalissade que tu t'en rappelles pas de la
lapalissade.
Quand par exemple il y a 3e la lapalissade, on est en train de dire il vaut mieux que Lens ne joue rien. Eh ben Lens il joue rien et tu vas pas nous inventer maintenant que c'est compliqué de rencontrer Lens.
Je te dis simplement que pour le Racing Club de Lens, ils ont fait le boulot avant. On va pas s'en plaindre. Pour les supporters de Lens, on va pas s'en plaindre.
La question, Pierre-Yves Leroux, c'est qu'est-ce qu'on en pense à Nantes? Est-ce qu'on a cette crainte, peur
si
de
par
voir...
contre, tu es Nantes, Benoît, et que tu n'es pas capable de battre Lens, qui est tranquille. Que Lens, que Auxerre, si tu es d'Auxerre, pardon.
Ah oui.
Que tu ne bats pas Lens. Un Lens qui maintenant est sûr d'être second, eh ben les amis, qu'est-ce que tu veux que je dise, c'est comme Nantes, si tu es pas capable de battre Angers parce qu'il y a un joueur d'Angers alors qu'ils sont ridicules ces joueurs là, ils sont en train de dire on va amener Nantes en deuxième division avec nous, mais en plus il est bête celui qui a dit ça. Tu amènes Nantes avec toi en deuxième division, comme ça tu augmentes le niveau et que ça sera encore plus difficile de pouvoir remonter. Eh ben bravo pour ton intelligence, ça m'avait échappé. Moi je suis de temps en temps, je suis très con.
Roland, je pense que le samedi on va te garder avec nous, on va pas t'envoyer sur BFM avant parce que ça te met dans un état de nerf un peu trop important. Je trouve à 19h.
Et en plus, c'est Messi qui m'énerve.
il a motivé les Nantais en plus avec cette petite phrase, parce que il nous l'a dit très clairement, Pierre Aristouille, j'ai pas aimé les déclarations des Angevins, et moi avec les équipes jeunes je les ai battues 3 fois cette année et j'espère bien que ce soir ça fera 4.
Bon, après il a pas besoin de ça pour se motiver, de toute façon,
c'est des petits trucs qui peuvent aider hein, quand même.
Enfin bon, de toute façon ils ont pas le choix les Nantais, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils gagnent et qu'ils prient.
Voilà. Effectivement, tu demandais comment ça se passe du côté de Nantes, il y a d'abord cette concentration sur ce qui va se passer à la Beaujoire, et pas oublier que depuis cette dernière victoire en février, ils n'ont marqué que 11 buts en 14 matchs. Bon. Donc la crainte des Nantais, c'est est-ce que.
Et il n'y a pas envie de leur mettre en plus.
Mais lui, il marque quand c'est à huis clos et sur pénalty.
C'est ça. Alors, 19h13 sur RMC, l'intégral foot. Vous restez tous là. Jeannot Rességui, Pierre-Yves Leroux, Sébastien Piocel, coach Courbis, dans un instant, on va se remémorer ce qui s'est passé en 2005. C'était complètement dingue. Vous étiez concernés, les gars. Roland, tu étais entraîneur d'Ajaccio. Sébastien, tu étais concerné par la lutte pour le maintien avec le Sporting Club de Bastia. Et on sera avec Mamadou Diallo, qui lui était joueur nantais. Tous les trois, d'ailleurs, vous étiez concernés, puisque Roland, tu n'étais pas encore sauvé à ce moment-là de la saison. La dernière journée, tu recevais Sochaux. On vous explique tout.
Et je crois même que c'est 2 minutes. Le score.
Eh ben, écoute, on va regarder ça. Je vais me replonger dans mes fiches. 19h14, détour par Roland Garros. Le point sur ce duel entre Cherundolo et Fritz, Anthony Reich.
Et le combat continue dans cette quatrième manche, puisqu'on est à 5 jeux partout. Cherundolo qui vient d'égaliser, justement, sur son service. Et c'est Taylor Fritz maintenant qui assure sa mise en jeu. 2-7-1, on le rappelle, pour l'argent. Dans ce choc de la journée, l'Argentin qui est en train de créer la sensation du jour face à la tête de série numéro 9.
Merci Anthony, et évidemment ceux qui veulent suivre Roland Garros avec attention, la radio 100% terre battue, évidemment sur l'appli d'RMC, radio digitale, vous ne manquez rien des matchs, tous les résultats rappelés toutes les demi-heures. 19h14, on vient dans un instant, justement on se replonge en 2005, le 28 mai, c'était complètement fou, on va tout vous expliquer avec Mamadou Diallo, ancien attaquant nantais. À tout de suite sur
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h18 sur RMC, Intégral Foot, avec deux consultants de qualité, Sébastien Piocel, coach Courbis. Ils sont là jusqu'à 20h pour lancer la 38e journée de Ligue 1. Tous les matchs à suivre à partir de 21h sur RMC, vous ne ratez rien. Et on est en plein cœur de la lutte pour le maintien, le duel à distance entre Auxerre et Nantes. On est également avec nos correspondants. Jeannot Rességuier qui est à la Baie des Champs pour ce Auxerre-Lens. Pierre-Yves Leroux qui est à Nantes pour ce Nantes-Angers. Et messieurs, on va se replonger en 2005, le 28 mai. Nantes qui tremblait, Nantes qui après 42 années passées en Ligue 1 voyait son maintien ne tenir qu'à un fil, et pour se sauver Nantes devait battre Metz et espérer des faux pas de Caen et de Bastia, le Bastia d'un certain Sébastien Piocel. Pour en parler avec nous, on accueille Mamadou Diallo, héros de cette soirée, héros nantais. Bonjour Mamadou.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue, merci d'être là. Mamadou, d'ailleurs, fidèle auditeur d'RMC, donc voilà, on est très heureux de te recevoir. Je rappelle donc le scénario dingue de cette soirée. Coach Courbis était alors entraîneur d'Ajaccio. Roland a maintenu le club corse en Ligue 1, mais Roland n'était pas sauvé au soir de la 38e journée. Roland, tu recevais Sochaux d'ailleurs au stade François Coty. Finalement, vous avez gagné 3-1 et le classement était dingue. Nantes était vraiment mal placé, mais Nantes s'en est sorti grâce à un scénario parfait, cette victoire 1-0 conjuguée aux défaites. Sébastien Bastiaise, vous avez perdu à Strasbourg 2-0, souviens-toi.
Un autre Mamadou qui avait marqué, Nyang.
Mamadou Nyang qui avait marqué. Et la folie de cette soirée, c'est que Caen, qui était le mieux classé de toutes ces équipes, avait perdu chez le dernier Istres, et finalement c'est Nantes qui s'était maintenu, donc vous étiez tous concernés. Déjà Mamadou, est-ce que ça donne des frissons lorsqu'on évoque ce souvenir? Est-ce que ça fait partie des plus grands souvenirs de votre carrière? Parce que évidemment, un but aussi important, on s'en souvient.
Oui, tout à fait. C'est des soirées qu'on peut pas oublier. Ça, c'est sûr et certain.
Plongeons-nous dans le souvenir. également de Pierre-Yves Leroux qui était au stade ce soir-là à la Beaujoire. Tu te souviens de cette année 2005 qui était folle d'ailleurs, Pierre-Yves, hein, parce que il y avait eu un push monté par les joueurs Michael Landreau qui avait fait éjecter Loïc Amis. C'était une saison folle cette saison-là à Nantes. Mais Pierre-Yves,
il venait d'arriver, Mamadou d'ailleurs. Ouais. Et moi j'étais à la Jaunelière ce soir-là et on avait pensé à lui parce qu'on s'est dit mais comment il vit cette situation? Les joueurs qui montaient dans le bureau de la direction, ils ne s'étaient pas entraînés ce soir-là, ils avaient refusé de s'entraîner. C'était incroyable, Mamadou.
Oui, tout à fait. Effectivement, mon premier jour d'entraînement, ça a été très, très, très délicat. J'arrive et puis, quelques minutes plus tard, il fallait monter dans le bureau du président pour aller discuter. Je comprenais
rien. C'était la condition pour que tu viennes, c'est que Loïc Amis part, c'est ça?
En tout cas, c'était une situation un petit peu compliquée. Mais bon, par la suite, ça s'est très, très bien terminé. Et puis, c'est ça qu'on retient.
T'imagines, Roland, premier jour, premier entraînement avec ta nouvelle équipe, fronde des joueurs à monter dans le bureau de la direction pour faire virer
c'était
l'entraîneur.
C'était surréaliste, hein, franchement.
Ah ouais, c'est fou. Ouais. Et Mamadou, si on se replonge donc en cette soirée du 28 mai, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte? Est-ce qu'on y croyait dans le vestiaire de Nantes ou est-ce qu'il y avait un peu de résignation? Est-ce qu'on se disait, là, il faut trop de facteurs, ça va être trop compliqué?
En tant qu'acteur, on est obligé d'y croire, même si nos chances étaient très, très, très minimes. Mais on se disait il fallait gagner. Et puis, si... on va clairement parler de miracle, hein, parce qu'il fallait que nous on gagne et que deux autres équipes perdent, ce qui n'était pas du tout évident. Ah ouais. Donc on a fait le boulot et puis la chance nous a souri que les deux équipes qui étaient concernées ont perdu. Mais c'est une situation qui, on va dire, psychologiquement parlant, c'est très très compliqué, mais on est obligé en tant que joueur d'y croire.
Est-ce que vous vous teniez informé des résultats des autres, donc de Bastia et de Caen notamment?
Non, pas du tout, pas du tout. Moi, personnellement, jusqu'à la mi-temps, même à la mi-temps, j'ai pas eu de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles. Je pense que le staff avait travaillé là-dessus. Peut-être en deuxième mi-temps, pendant le match, peut-être les gens ils étaient au courant. Mais personnellement, dans les images, on voit que même après le coup de sifflet final, je vais à la chasse aux infos. Je dis, mais alors, les autres, ils ont fait quoi? J'y croyais pas du tout. Mais bon, ça a été quelque chose d'incroyable à vivre.
Sébastien, tout le monde n'avait pas les téléphones à l'époque dans les stades pour avoir les infos. Hein,
c'est sûr, c'était moins développé qu'aujourd'hui. Sébastien, quel souvenir que tu gardes toi de cette soirée? Donc, tu étais un joueur Bastia. Vous aviez une belle équipe sur le papier. On l'a fait ensemble tout à l'heure. Il y avait Christian Carambeu. Il y avait énormément de très bons joueurs.
Il y avait Stéphane Ziani. Il y avait Chibanda. Il y avait Pierre-Yves André qui était revenu.
Vous jouiez à la Méno, Strasbourg, qui avait rien à jouer et vous aviez perdu ce soir.
Ouais, alors nous, on était, si je me trompe pas, on était déjà dans la zone rouge. Ouais. Je crois que Nantes était avant-dernier. Et nous avant-dernier. Et c'était Caen qui était le mieux placé des trois. Ouais. Et c'est vrai que Strasbourg n'avait plus rien à jouer. D'ailleurs, on prend deux buts, nous, à la 84e et 90e. Pour le coup, donc nous, on savait ce qui se passait sur les autres pelouses. En tout cas, il y avait des signaux par rapport aux bancs de touche. Et c'est vrai que déjà, nous aussi, il fallait qu'on gagne. Il fallait qu'on gagne absolument. De toute façon, il fallait pas regarder les autres résultats. Et on n'a pas fait le job. Donc à partir de là, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Après, c'est vrai que quand tu joues contre une équipe qui a plus rien à jouer, certes qui joue à domicile son dernier match, ça gueulait un petit peu en fin de rencontre parce qu'il y avait des Strasbourgeois qui poussaient un peu trop fort. Mais après, en général, quand t'es dans la charrette à la fin. C'est que ça se joue pas à la fin en fait. Finalement, c'est que c'est un peu comme Nantes. Si Nantes descend ce soir, c'est pas ce soir que Nantes descend. Ouais. C'est parce que tu fais une saison pourrie.
Parce que Mamadou, vous aviez la pression parce que depuis la montée de Nantes dans l'élite, Nantes n'était jamais descendu cette année-là. Donc il y avait la pression d'être l'équipe qui faisait descendre le FC Nantes en D2. Est-ce que vous aviez terminé ce moment-là, certes heureux, mais vidé moralement et physiquement? Est-ce que ça a été dur à vivre ces 6 mois pour vous?
Tout à fait, extrêmement, extrêmement dur. Parce que effectivement, il y avait Nantes qui restait sur plus de 40 années dans l'élite. Donc, on avait cette pression-là de ne pas vouloir faire partie de la génération qui fait descendre Nantes. Et il y avait ça, il y avait aussi que Nantes, vous le savez bien, c'est une ville de foot. On était quasiment... pas relégable, mais on était dans le dur depuis le début de la saison. Mais la Beaujoire affichait 30 000 spectateurs de moyenne. Et c'était très compliqué de les voir comme ça. Et c'est vrai que à la sortie d'une saison comme ça, on ressort vraiment, vraiment vidé, mais extrêmement soulagé de la fin.
Et puis, quand je vois la feuille de match, là, au-delà de ça, il y avait énormément de joueurs aussi formés au club. Donc là aussi, ça a un impact.
Alors, je dis pas que
les joueurs aujourd'hui, c'est des mercenaires, mais aujourd'hui, donc tu changes de plus en plus de clubs. Des fois, t'as pas le temps de t'installer vraiment.
Il y a moins d'identification.
Ouais, et voilà. Et c'est vrai que quand t'as des joueurs formés au club, ils savent, ils connaissent les valeurs du club. Après, je dis pas que quand tu arrives de l'extérieur, t'as pas un bon tempérament. Il y en a. Je vais pas généraliser. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait une ossature avec beaucoup de joueurs formés au club, ça a pu faire aussi peut-être la différence à ce moment-là.
Ouais. Mamadou, dernière question. Est-ce que le public a été derrière vous jusqu'à cette dernière journée sur ce match? Au début de match, vous avez marqué à peu près la 40e minute. Est-ce que le public était à fond derrière vous dès le coup d'envoi?
Non, mais pas que sur ce match-là. Hein. Ouais. Même les matchs d'avant, ils nous ont toujours soutenus, même si c'était dur. Ils savaient que ça allait être compliqué. Mais ce dernier match à domicile, on affichait complet. Et puis après ce but-là, il y a l'explosion de joie de la part de toute une ville quasiment, parce que c'est la Beaujoire, quand c'est chaud, c'est extraordinaire.
Ça avait été un match maîtrisé, Mamadou, ou pas? Parce que quand je dis maîtrisé, c'est que vous avez eu d'autres occasions pour faire le break. Est-ce que Metz poussait?
Oui, Metz a poussé. Moi, je pense qu'on fait un bon début de match. À mon avis, on fait un bon début de match jusqu'au but. Et après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on est dans le dur, parce que dans cette situation, on menait 0, on savait pas. Voilà, on savait pas est-ce qu'il faut attaquer, est-ce qu'il faut défendre. Donc c'était un peu haché à la fin, mais ça a eu quelques situations. Je pense que Mika a fait deux arrêts, je pense. Mais c'était très compliqué, parce qu'à la fin, il y avait plus de jus. Moi, là, je pense qu'à la 85e minute, j'arrivais plus à rien faire, mais ça tenait au mental, parce qu'il fallait s'accrocher. Mais au final, ça a payé et c'était extraordinaire.
Bon, Mamadou, confiant pour ce soir ou très inquiet?
Écoutez, je suis confiant. J'espère vraiment que les gars ils vont réussir à le faire, parce que voilà, ça sert bien pour le club, pour la ville. Et déjà qu'ils gagnent, je pense que s'ils gagnent et que le dénouement est favorable pour eux, ça sera bien. Il faut surtout pas se louper, que derrière les autres, il faut pas avoir de regrets, on va dire.
Au moment, Benoît, où les joueurs arrivent justement dans l'enceinte du stade, ils descendent actuellement du bus sous les acclamations du public ici à la Beaujoire, qui est derrière son équipe pour le moment.
Mais bon, merci Mamadou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon match. Salut, ce soir.
Merci à vous.
Mamadou,
merci,
héros merci nantais en 2005, qui a permis à Nantes de se maintenir miraculeusement. Coach Courbis avait tout géré tout seul à Ajaccio, parce qu'ils avaient battu Sochaux 3-1. C'était d'ailleurs les adieux de Roland sur le banc ajaccien cette année-là, si je dis pas de bêtises. Tu t'en vas, je crois, fin 2005.
Oui, je partais aux Émirats.
Wow, t'étais sollicité, évidemment, on s'en doute. Pour le projet sportif,
ouais,
t'es parti aux Émirats.
Pour le projet sportif, pas pour le chien, quand même.
Bon, ok. Et puis, Seb, malheureusement, était descendu en Ligue 2 avec Bastia. 19h29, on remercie nos correspondants. Merci Pierre-Yves Leroux. Merci Pierre-Yves, à tout à l'heure, 21h.
On croise les doigts, Nantes,
Angers, on croise les doigts. Merci Jeannot pour ce Auxerre-Lens.
De rien.
Allez, Jeannot, Roland, faites-vous un câlin.
On se rappelle qu'en 98, ils étaient venus chercher le titre de champion à Lensois. Mais bon, à l'époque, ils venaient chercher quelque chose, coach. Mais bon, je suis désolé ce soir.
Allez, un petit câlin.
Ils viennent rechercher.
Un match nul leur suffisait. C'est même Lachor qui avait égalisé.
Exactement. Voilà. Ils étaient menés au score et Lachor avait marqué à la 53e minute à la lutte avec le FC Metz. Et ils avaient été champions de France 98, le Racing Club de Lens.
C'est ça, RMC. Ça chauffe. Puis on se réconcilie.
Évidemment. Et tout va bien, je te rassure.
Les amitiés sont là. Elles sont fortes. Merci, Jeannot. À tout à l'heure. 19h29. Vous restez là, Sébastien et Roland. Je vous signale jusqu'à Roland Garros. Francesco Cerundolo, l'Argentin, s'est qualifié pour les huitièmes de finale puisqu'il a sorti l'Américain Taylor Fritz en 4-7. Victoire 7-5 dans la quatrième manche. Dans un instant, Roland et Seb, on parle de la course à l'Europe, notamment la course à la Ligue Europa pour Lille, pour Rennes et pour Monaco. À tout de suite sur
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h34 sur RMC, dans 25 minutes désormais, l'After Live spécial 38e journée de Ligue 1. C'est une grande soirée, tous les matchs de la dernière journée à suivre en direct en intégralité et en simultané dès 21h. Ensuite l'After de 23h à 1h du matin, vous ne manquerez rien. Évidemment, on vous rappelle d'ailleurs l'info foot qui vient de tomber. L'officialisation par le Paris Saint-Germain du départ à l'issue de la saison de Léo Messi. Messi s'en va, c'est donc son dernier match sous le maillot parisien ce soir à 21h face à Clermont. C'est l'un des moments forts de cette soirée qui vous attend. Toujours avec coach Courbis, évidemment, avec Sébastien Piocelle. Les gars, parlons désormais de la course à l'Europe. On l'a dit, la quatrième place en Ligue 1 est qualificative pour la Ligue Europa, la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Je vous rappelle le classement actuel. Lille est quatrième avec 66 points. Rennes, cinquième avec 65 points. 65 points également pour Monaco qui est sixième, mais qui a une différence de but inférieure. Les matchs concernés, 3 Lille, Brest, Rennes et Monaco-Toulouse. On va en parler avec nos correspondants Maxime Tilliette, Morgan Maury et Xavier Grimaud. Salut messieurs.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir à tous.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
Alors une fois n'est pas coutume, on va pas démarrer dans l'ordre du classement. On va s'intéresser d'abord à Monaco, Maxime Tilliette, parce
pourquoi
que on est subjugué. Alors, je sais pas si c'est le mot. On est attristé plutôt par la fin de saison monégasque. On ne s'y attendait pas du
pas
tout.
La peine.
Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, mais il y a un mois, souviens-toi, Roland, on en parlait d'ailleurs dans Rotten sans flamme avec Jérôme Rotten, on se disait Monaco, candidat crédible à la Ligue des Champions. Et au final, aujourd'hui, on se demande, Roland, s'ils vont même disputer une Coupe d'Europe.
Il y a un peu plus d'un mois, non ?
Un mois et demi.
Bah, au soir de la 31e journée, après la victoire face à Lorient, Monaco était 4e à 2 points de Lens. Donc la Ligue des Champions était encore tout à fait probable. Marseille n'était pas loin non plus. Et 6 points de plus que Lille et 8 par rapport à Rennes. Et depuis, ça a été la dégringolade.
Maxime, grâce à nous, tu vis sur la Côte d'Azur. Donc, explique-nous ce qui se passe à Monaco.
J'étais là avant.
Ouais, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un virage qui a été pris cette saison. Il y a un moment où ça a bifurqué. C'est l'élimination face au Bayer Leverkusen. Depuis, la moyenne de points a chuté. Le groupe aussi a eu du mal à se remobiliser. Et derrière, il y a eu la double gifle face à Lens, à Bollaert, et puis ici à Louis II contre Montpellier. Il a fallu bifurquer d'objectifs et mentalement, ils n'ont pas réussi à rebondir après ces échecs et se remettre dans la course pour aller chercher malgré tout, sauver les meubles avec une place en Europa League ou Europa Conference League. Et la dynamique là, on est sur une seule victoire sur les 6 dernières journées, c'était une victoire à Angers, sinon il y a un nul face à Lille ici et 4 défaites, et dans celle-ci eh bien, il y avait des confrontations directes face à Lille, face à Rennes justement. Il y a Lyon également qui se rapproche derrière avec la défaite au Groupama Stadium, donc la dynamique n'est pas bonne, et à côté de ça ça se crispe dans le vestiaire, où le message de Philippe Clément passe un peu moins bien, moins de relais dans le vestiaire. Et puis il y a des joueurs comme Ismaël Jacobs qui en début de semaine a été viré de l'entraînement, envoyé chez lui parce que il a trop profité des festivités du Grand Prix de Monaco qui venait de se terminer, cela quelques heures à peine après la défaite à Rennes. Donc ça fait beaucoup, pas mal de tensions. Il y a Crépin Diatta qui a dit après cette défaite à Rennes justement que tout le monde ne tirait pas dans le même sens. Miraculeusement il n'est pas dans le groupe ce soir. C'est soi-disant pas lié à cette déclaration.
Il a dû se mettre une balle dans le pied.
Non mais c'est vrai, Roland, quand tu débarques au lendemain du Grand Prix de Monaco en smoking avec un nœud pape, ça fait bizarre à l'entraînement. À 10
oui,
heures.
C'est, non, mais vrai c'est une blague. C'est une blague. Si tu voulais te faire remarquer,
j'espère. Non mais c'est une blague. Je sais pas la tenue qu'il avait. En tout cas, l'explication c'est ça, c'est qu'il a trop fêté
la saison de Monaco. Tu t'es penché de A à Z, à savoir cette Coupe du Monde qui a été quand même quelque chose de nouveau et que ça n'a jamais existé, a pu perturber Monaco par rapport à certains joueurs. Je me suis pas penché sur ce problème.
Axel Disasi et Youssouf Fofana sont revenus et n'ont pas eu le même impact sur la deuxième partie de saison qu'ils ont pu avoir sur la première. Ça c'est clair. Ils l'ont assumé. Même physiquement, ça a été plus compliqué. Il a fallu aussi assumer cette défaite au tir au but. Les deux étaient entrés en cours de match pendant cette finale face à l'Argentine. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu des séquelles et maintenant
on paye les pots cassés. Tu sais, tu remontes loin, toi, jusqu'à cette élimination face au Bayer Leverkusen pour le tournant de la saison. Souvenez-vous, moi, je pense qu'il y en a un plus récent. C'est cette claque reçue à Bollaert face à Lens. Tu te rappelles de ce match, Roland? 3-0. Monaco qui a été débordé dans tous les compartiments du jeu. C'est vraiment une humiliation subie ce soir-là, Maxime, par Monaco.
Oui, très clairement. Et puis la claque face à Lens, elle avait déjà eu lieu en tout début de saison quand les Lensois étaient venus à Louis II. C'était l'été dernier. Et on n'a pas eu l'impression d'avoir vu une évolution dans l'équipe monégasque qui s'est faite balader encore une fois face à ses seniors. Et en plus, là, sur ce match retour à Louis II c'était à Bollaert. Mais la semaine d'après, il y a Montpellier qui vient. Un Montpellier qui était certes relancé depuis l'arrivée d'Arzakarian, mais ils ont 24. Ça veut dire que mentalement, ils se sont totalement effondrés. Et voilà, Philippe Clément a expliqué qu'il manquait de, peut-être de cadre, de leader dans son groupe, capacité mentale à se relever, mais au final, ça ne l'a pas fait. Et derrière, là, il faut courir. Parce que même après ces deux gifles, Monaco était quand même devant, avait son destin entre ses mains.
Dans un instant, la tentative d'explication de coach Courbis, savoir pourquoi ça se passe aussi mal cette fin de saison à Monaco. Juste cette info que nous livre Fabrice Hawkins, suiveur du PSG, qui commentera PSG Clermont ce soir. Les maillots parisiens seront tous floqués au nom de Sergio Rico. Évidemment, beaucoup de pensées vers le coéquipier des Parisiens, qui est toujours dans un état grave. On rappelle, accident la semaine dernière, dimanche dernier, à Séville, tombé de cheval. Il est dans un état grave. Donc Sergio Rico, toutes les pensées vers lui. Il n'y aura pas de festivités prévues malgré la réception du 11e titre de champion de France. Donc tous les maillots des joueurs parisiens seront floqués au nom de Sergio Rico ce soir. 19h40, Roland, comment toi tu l'expliques justement cette très mauvaise deuxième partie de saison de l'AS Monaco? C'est un problème managérial, c'est un problème d'investissement individuel. Comment tu vois ça?
Disons un peu tout. Après, j'ai pas en tête toutes les éventuelles blessures qui ont pu être emmerdantes. C'est sûr que quand on regarde par habitude et pour un petit peu faire après des pronostics ou avoir une idée, ben il y a une composition d'équipe avec une organisation qui donne l'impression de bien marcher. Par contre, il y a certains matchs où on n'a pas tout à fait compris ce que faisait Clément, mais bon, on n'a pas la prétention d'être plus intelligent que lui. C'est lui qui voit ses joueurs tout au long de la journée, toute la semaine. Mais bon, le problème du gardien n'a pas été réglé pour moi. Même si des fois il faisait quelques arrêts, j'attendais comme commentaire. Oh, mais bon, là quand même, ce soir, il est pas mal. Oui, il est pas mal. Allez, d'accord.
Mais il n'est pas au niveau pour autant.
Bientôt, on va avoir un gardien qui fait quelques arrêts quand même. donc celui-là. Je pense qu'il va falloir le prendre en photo, faire un poster dans les couloirs des trucs à côté des Onis, des d'Alger, des joueurs comme ça. Parce que sincèrement, l'avoir gardé pendant 2 ans et ne pas avoir fait des résultats plus mauvais que ce qu'a pu faire Monaco, ben moi je dis que c'est un exploit.
Tu veux dire qu'il n'aura pas de remise de prix Nobel, du coup?
Non. Okay.
Alors justement, parlons du match de ce soir. Il y a pas mal d'absents. Golovin ne sera pas là. Est-ce qu'on a une idée de la compo attendue à Monaco?
Jacobs pas là non plus, du coup. Oui, et Diatta pas dans le groupe. Boadou était trop juste, donc ça fait quelques absents. Mais Philippe Clément devrait repartir sur un 4-4-2 avec à droite Aguilar, à gauche Caio Henrique, et puis dans l'axe Dizazi, Maripane. Ailier droit, ce devrait être Vanderson, qui l'était déjà à Rennes la semaine passée. Et puis à gauche, il y a quelques incertitudes, ça peut être Minamino, ça peut être Marnes Akhtiyouch. En tout cas, à la récupération, dans l'entrejeu, on attend Camara Fofana. Ça a été l'une des satisfactions, notamment sur la première partie de saison. Va falloir qu'il le montre ce soir pour aller chercher une victoire très précieuse. Et puis devant, Ben Seguir et Ben Yedder pourraient être associés. Brahim Mbolo est encore un peu juste, lui qui a été touché au genou juste avant la dernière trêve internationale et qui a manqué quand même quasi 2 mois de compétition, et ça a compté sans doute dans le groupe et dans le vestiaire monégasque.
Maxime, pour être clair, une absence de Monaco en Coupe d'Europe serait une catastrophe pour le club?
Oui, c'est déjà financièrement. Rappelez-vous les derniers mercato. Benoît Badiachil est parti, il n'a pas été remplacé parce qu'il y avait un déficit à combler. Ça a été à peu près pareil avec Aurélien Tchouaméni qui est parti pour une très grosse somme. Mohamed Camara est arrivé, c'est un très bon joueur, mais qui n'avait pas du tout la valeur d'un Aurélien Tchouaméni. Et donc financièrement, il fallait rééquilibrer les comptes et on comptait notamment sur les mercato, mais aussi sur les qualifications en Coupe d'Europe qui assurent certaines rentrées d'argent, notamment surtout si c'est en Ligue des Champions. Là, si c'est pas le cas, ça va être plus compliqué et il va y avoir un groupe à régénérer cet été parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont partants. On parlait des deux mondialistes qui sont en cas de bonne offre devraient s'en aller et ils sont sollicités, donc cet été ça devrait pas mal bouger. Et puis si tu demandes si c'est une catastrophe, Philippe Clément lui a dit que ce serait le plus gros échec de sa carrière d'entraîneur, qui a surtout connu les titres en Belgique.
Merci Maxime. Évidemment, tu restes avec nous. On parle de la course à l'Europe. Dans un instant, on s'intéresse à Lille qui est 4e pour l'instant, à Rennes qui est 5e. Morgan Maury va commenter 3 Lille. On fera le point sur le LOSC. Et puis, évidemment, Xavier Grimaud, c'est notre Breton. Il est à Brest, le Finistère. Ce derby breton entre Brest et Rennes, les Rennais qui aussi s'accrochent à une place européenne, que ce soit la 5e ou la 4e. Roland, tu restes là. À tout de suite sur RMC. On est ensemble jusqu'à 20h.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h47 sur RMC l'Intégral Foot. On est là jusqu'à 20h. Ensuite, c'est Thibaut Giangrand qui prendra le relais pour l'After Live. Soirée Ligue 1, grande soirée de Ligue 1. Tous les matchs de la 38e journée à vivre en direct en simultané à 21h. Ensuite, l'After de 23h à 1h du matin avec Gilles Villervoy et Daniel Riolo. On parle de la course à l'Europe. On a parlé de l'AS Monaco. Concentrons-nous, coach Courbis, désormais sur le LOSC et sur le Stade Rennais. Le classement actuel, Lille est quatrième avec un point d'avance sur Rennes. Rennes a le même nombre de points que Monaco, qui est sixième et une meilleure différence de but. Parlons des Lillois. Roland avec Morgan Maury qui est donc au Stade de l'Aube à 3. 3 qui est déjà relégué, Morgan, en Ligue 2. 3 qui est 18e. Est-ce qu'il y a déjà une belle affluence attendue à 3 ce soir?
Oui, belle affluence. Il suffisait de se balader dans les rues de la ville pour n'y voir que du rouge. Les supporters lillois, sont descendus en masse. Dans la région Champagne, c'est le Lille on tour, c'est le mot d'ordre sur les réseaux sociaux. On ne voit que des maillots rouges avec le bob blanc aussi, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui à Troyes. Ils ont déjà bien rempli la tribune qui est à ma gauche, la tribune Seine. On attend 2500 supporters lillois pour cette soirée qui est importante pour le club de Fonseca. Possibilité d'être qualifié pour la phase de poule, directement la phase de poule de la Ligue Europa. Alors forcément, les supporters ont fait le voyage en nombre et Lille a la balle de match dans les mains, en tout cas pour terminer à la quatrième position de la Ligue 1. On est chez nous, on n'entend que ça depuis tout à l'heure dans le stade. Il y a 99, pour l'instant, il y a un peu plus d'une heure du coup on en voit, quelque chose comme 99% de supporters lillois et le reste quelques Troyens.
Benoît, Morgan, oui, un truc quand même qu'il faut rajouter dans toute l'analyse qu'on va faire encore dans les minutes qui suivent, c'est qu'on a peut-être aussi un problème pour la cinquième, sixième place. Avec le cas de Toulouse qui peut-être ne peut pas participer aux Coupes d'Europe.
Ça, c'est pas, il y a pas encore. Alors à Toulouse, on se montre confiant. Je rappelle pourquoi tu dis ça, hein, pour ceux qui ne sont pas au fait de toute l'actualité de la Coupe d'Europe. En fait, Toulouse a le même actionnaire que le Milan AC et évidemment deux clubs possédés par un même actionnaire ne peuvent pas disputer une même compétition. Et il y aurait une possibilité. Toulouse s'est qualifié pour la phase de poule de Ligue Europa en remportant la Coupe de France. Mais si jamais le Milan AC est qualifié pour la Ligue des Champions, il y a une possibilité pour qu'au cours de la saison, Milan soit reversé en Ligue Europa et donc dispute la même compétition que Toulouse. Donc il y aurait conflit d'intérêts. La question n'est pas encore réglée, mais on n'est pas inquiet pour l'instant à Toulouse. C'est ce qu'on nous fait savoir, Roland. Donc, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Pour parler de Lille, Roland, c'est une saison un peu paradoxale pour les Lillois, parce que le nombre de fois où cette saison, on s'est dit, c'est encore un rendez-vous manqué par Lille. Ils se sont fait rejoindre, ils n'ont pas gagné ce match-là, ils ont eu beaucoup d'occasions, et finalement, ils sont quatrième du championnat quand même.
Mais ils sont quatrième du championnat avec un effectif qui me paraît être très équilibré. Je vois s'il n'y a pas de blessés, pas mal de bons joueurs à tous les postes. Contrairement à Monaco, eux, ils ont changé le gardien en cours de saison. Et celui qu'ils ont mis en place, je le mets comme le deuxième gardien de notre championnat après Brice Samba.
Chevalier ?
Chacun ses goûts, okay. Oui. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, je ne lui dis pas qu'il a tort, mais à ce moment-là, s'il peut me dire qui c'est qui est meilleur, ça me
semble. Vas-y, Morgan, dis qui est-ce qui est meilleur que Lucas Chevalier. Vas-y.
Roland est spécialiste du poste de gardien, je le laisse.
Peut-être Nobel, peut-être, je sais pas. Ouais. Pas sûr. Ouais.
En tout cas, pour aller dans le sens de ce que dit Roland, Lille a été troisième après la première et la deuxième journée et n'a jamais retrouvé un tel classement avant la quatrième place à l'issue de la 37e journée. Lille a longtemps été cinquième, sixième et ils sont peut-être en train de coiffer tout le monde au poteau grâce à leur sprint.
Au niveau, si tu veux, de leur qualité, de leurs défauts. Ben ça, tout le monde en a, individuellement et collectivement. Mais Lille, je pense que c'est les champions de France du nombre d'occasions ratées.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je te disais ça.
Là,
bien sûr.
Là, je dois,
l'inefficacité.
Je dois reconnaître que.
Il y a deux spécificités à Lille, il y a ça et le nombre de buts inscrits sur pénalty, d'ailleurs, notamment par Jonathan David.
Au niveau de la finition, après, des conneries, on en fait tous dans les choix et pour le moment.
Pas préjudiciable.
Le numéro 9 qui est arrivé de Clermont.
Ah, Bayo.
Bayo. Donc on attendra de voir s'il ne nous baille pas une deuxième année. Alors que ce joueur-là, pour moi, a beaucoup de qualités.
Pour le moment, c'est Balou.
C'est peut-être son année d'adaptation, mais c'est une saison très moyenne, pour ne pas dire ratée.
Morgan, on a une idée de la compo qui sera alignée par Fonseca ce soir à 3?
Oui, il lui manque pas grand monde à part Diallo et André Gomes qui sont blessés. Ça ressemblera à une équipe quasiment type avec Lucas Chevalier dans la cage et des supporters qui demandent déjà son maillot. Diakité, Fonte, Alexandro, Wea, Benjamin André, Angel Gomes et devant Ounas Kabela, Jonathan Bamba et peut-être Jonathan David en pointe.
Merci Morgan, à tout à l'heure. Hein,
à 21 tout à l'heure.
Heures, le coup d'envoi de 3 lignes.
La condition, c'est que Lille doit faire comme Rennes et Monaco.
Voilà,
si ces deux clubs perdent ou font match nul, si Lille fait le même résultat, c'est bon. S'il y a victoire, là, c'est sûr. Qualification pour l'Europa League avec la 4e place.
La rigueur de Morgan Mori, rigueur légendaire. Et on peut aussi dire que si Lille gagne, eh ben, Lille sera assuré de terminer 4e du championnat. Merci Morgan, à tout à l'heure. Parlons d'un derby breton désormais. Allons dans le Finistère, à Brest. Brest a assuré son maintien la semaine dernière. On était en direct avec Eric Roy, d'ailleurs, dimanche dernier, coach Courbis. Est-ce que Brest va embêter Rennes? C'est la question que Xavier Grimaud, alors, à ton avis. Est-ce qu'on va tout faire pour priver le Stade Rennais de Coupe d'Europe à Brest?
Alors, je ne sais pas si ce sera le levier présenté comme ça par Eric Roy de priver Rennes d'Europe, mais Eric Roy l'a dit, et dès la fin du match, la victoire à Marseille, quand même, la semaine dernière, il voulait gagner contre un gros, c'est fait avec la victoire au Vélodrome. Il a dit, avant de partir, en vacances, hein, entendons-nous bien, il va rester très certainement Eric Roy. Je veux gagner un derby, donc celui-là, pourquoi pas. En plus, Brest a prévu de faire une grande fête. Les supporters évidemment vont fêter le maintien. Ils le font depuis ce midi avec un grand barbecue. Ça sent la merguez là derrière la tribune.
Ouais,
derrière la tribune des ultras, il y a un grand défilé. Il y aura un feu d'artifice. Il y a un hommage qui est prévu pour Aris Belkebla qui va quitter le club. Ah. Donc voilà, le blé va vibrer pour son équipe, une équipe qui en plus Roland a fait une fin de saison quand même qui est quasiment bluffante même. Avec une accélération énorme depuis quelques semaines pour aller chercher ce maintien très tôt. 3 victoires de suite pour le Brest d'Éric Roy. Bon, il manque des éléments, il manque Franco Nora notamment, ça peut changer pas mal de choses. Après, pour parler de Rennes, bah Rennes est sans doute par rapport à Lille et à Monaco l'équipe qui est dans la meilleure dynamique avec 3 victoires de suite, 11 buts marqués, 0 but encaissé. Alors certes, il y a eu 3 et Ajaccio qui ont pris une fessée, mais il y a eu cette victoire face à Monaco la semaine dernière dans un vrai, vrai, vrai bon match des Rennais, peut-être l'un des meilleurs depuis bien longtemps, certains disaient même depuis le début de la saison, avec des cadres qui retrouvent un vrai niveau. Donc sur la lancée, logiquement, Rennes a moyen d'aller chercher une victoire. Et on rappelle, pour que je prenne un peu de rigueur de Morgan Mori, c'est simple pour Rennes, une victoire, ils sont assurés au moins d'être à la 5e place.
Une victoire, t'es européen.
En conférence, voilà. Une victoire, t'es européen. Donc les données sont assez claires. Tout autre résultat nécessiterait de regarder
Xavier,
les autres matchs.
Oui. Tu as de l'expérience, ça fait longtemps que tu officies sur RMC. Évidemment, tu te doutes quand tu as parlé de problèmes à Rennes et d'absence de gardien, Roland a tiqué, quoi.
Évidemment, parce qu'il y a Steve Mandanda, Roland, qui n'est pas là. Steve Mandanda n'est pas là, blessé au mollet, saison terminée. Donc c'est Dogan Alemdar, le Turc.
Et là, il a un frisson, Roland.
Bah, ouais. Que je trouve moyen.
Et on le trouve tous moyen, Roland, pour être honnête. Il a pas de match référence avec le stade rennais. Et il y a une autre absence de dernière minute dans le groupe qui a été publiée ce matin par le club. C'est Arthur Théâtre qui est blessé également. Voilà, blessé au mollet, il avait déjà raté le match à Ajaccio, donc petite douleur, il n'est pas dans le groupe. Donc c'est, on n'a pas encore la feuille, mais selon toute vraisemblance, ce sera Joe Rodon, le Gallois, qui sera titulaire pour son dernier match avec Rennes avant de retourner à Tottenham. Qui est moins bon que Théâtre, qui a des arguments physiques potentiellement pour contrer Mounier ou les ballons longs de Brest. Donc voilà, mais en tout cas, il manque Mandanda. Il manque Théâtre. Donc ça déjà effectivement c'est une défense qui va être un peu plus fragile. En tout cas voilà, Rennes est tout proche, Benoît, d'aller chercher l'objectif du début de saison, à savoir se qualifier à nouveau pour une Coupe d'Europe. Ce serait la 6e saison de suite.
Eh
les
oui.
dirigeants rennais qui insistent bien dessus parce qu'ils ont raison. Hein. Seul le Paris Saint-Germain fait mieux. 6 saisons de suite en Coupe d'Europe. Ça montrerait que le club reste.
C'est un discours à Jean-Michel Aulas.
Bah un peu c'est sûr, c'est sûr. Bah le bilan on pourra le faire à partir de demain en fonction du résultat.
Ouais.
Je sais que Jérôme notamment Roten est assez sévère, parle parfois de fiasco, d'échec de la saison rennaise. Bah à Rennes on n'entend pas ça en disant si on finit européen avec les aléas de la saison, ce sera une saison réussie. Maintenant il reste le plus dur, à savoir le concrétiser. Pour
Tout
ça il faudra gagner à Brest pour être certain.
Roland, ton feeling sur ce Brest-Rennes?
Je vois pas Brest perdre.
Ah, donc tu vois une belle fête à
Leblay.
Je vois pas Rennes gagner, quoi, si je trouve.
Avoir la fierté de justement, bon, peut-être pas de battre Rennes, mais de pas perdre une 38e journée. C'est quand même un championnat qui est réussi parce que pour un club comme Brest, ne pas descendre quand il y a quatre descentes, mais c'est tout simplement un exploit. Choisir Éric Roy, qu'on se rappelait même pas qu'il avait été un entraîneur alors qu'il a été entraîneur et ça s'était bien passé quand il était à Nice. Ben, ça, c'est l'idée de Greg Lorenzi. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui aurait compté sur Eric, ce qui va d'ailleurs changer un petit peu sa carrière, parce que maintenant, on se rappellera à nouveau qu'il y a un garçon comme Eric Roy qui est compétent aussi dans notre championnat.
Ah, tu sais, Roland, Roland, qu'on le rappelle beaucoup. Hein. Eric Roy, il le disait, je l'ai fait en entretien il n'y a pas longtemps, et il le disait, c'est marrant comme on oublie les gens et dès que ça marche un peu mieux, on nous rappelle. Donc il a quelques sollicitations.
Arrête pas de souffler le nom de coach Courbis dès qu'il y a un coach qui s'en va, à Marseille, à Paris, tout ça. Heureusement que je suis là. Bon, merci Xavier. On se retrouve à 21h pour le Gaulois de ce Brest-Rennes. Vous l'avez compris, en langage courbicien, Roland jouerait le N-N. Voilà. Merci Roland d'avoir été avec moi. On se retrouve demain à 17h pour l'intégral foot et dans un instant, le grand Thibaut Giangrand pour cette magnifique soirée de Ligue 1, la 38e et dernière journée du championnat. Tous les matchs à 21h, l'avant-match pendant une heure, tous les enjeux de la soirée. Évidemment, vous ne raterez rien. Ensuite, il y aura l'after jusqu'à 1h du matin. Bonne soirée foot sur RMC. Ciao.
RMC Intégral Foot. Ne ratez rien du foot sur RMC.